Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 100 6, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 janvier 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 1er février, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, cher Serge.
C'est pas à peine que je fasse toute une gestuelle rituelle pour dire silence à gauche, silence à droite, silence sur les, l'une et l'autre colonne.
Et voilà.
Bravo. Alors ce soir, je reçois Gérard Marin qui, pendant 3 heures, va dire tout le bien qu'il pense de mon livre. Non, pardon, ça c'était tout à l'heure. Excusez-moi. C'était lui qui me recevait. Non, j'ai dit ça pour rire. C'est la journée Beketch aujourd'hui. 6 heures avec Beketch. C'est hallucinant.
Mais ils sont contents.
Et après, on s'étonne que les cotisations s'effondrent. Oui, c'est diffusé 2 fois. De midi à 1h30, de 4h à 5h30. Alors, et après, de 6h à 9h, le même.
Encore Beketch, aujourd'hui.
Est-ce qu'en 1h30, vous avez réussi à dire que c'était 25 euros franco à SDB, 4 Place Francis, 75-010 Paris?
C'est Gérard qui l'a dit très gentiment, d'ailleurs. Non, alors, en vrai, je reçois ce soir, dans l'ordre d'apparition à l'antenne, comme on disait sur Paris Inter, à l'époque d'Arnaud de Chassis-Poulet. Oh. Vous vous rappelez d'Arnaud de Chassis-Poulet?
Non, pas du tout.
Oh, c'est rien, cette fois-là.
J'ai la mémoire qui flanche.
Non, vous savez pas qui c'est Arnaud de Chassis-Poulet? C'était le producteur d'une des plus célèbres séries radiophoniques qui était... Ah, ça y est, le trou idiot, je me souviens du nom de Chassis-Poulet.
C'est l'autre?
Mais si, malheur aux barbus, voilà.
Malheur aux barbus. J'ai dû entendre.
Du poulet depuis.
Ouais, je sais pas ce qu'il est devenu. Avec, il y avait Francis Blanche, il y avait tout ça, il y avait, Pierre Dac.
Je n'aimais pas beaucoup.
Oh, oh bah,
vraiment, quoi.
Quelle tristesse.
La liberté de.
Non, mais je ne veux pas vous
d'opinion.
Garder.
Non, non,
Ruquier, c'est mieux, hein, Victoria.
Pas dans mon émission,
pas non
certainement
plus.
Pas. Je reçois donc Thierry Bouclier, qui vient de faire un livre extrêmement intéressant, je dirais même passionnant, sur Poujade, Pierre. Et alors, j'étais d'autant plus étonné que j'aurais jamais cru qu'on pouvait faire un bouquin intéressant sur Poujade. Bah non, mais je peux parler quand même, non? Pour moi, Poujade, c'était l'inventeur du poujadisme.
C'est bien le poujadisme.
Je dis pas le contraire, mais enfin, c'est pas très gratifiant comme image pour les jeunes que je suis. Et j'ai découvert que c'était un personnage incroyable, mais vraiment un héros, enfin, non?
Je vous rejoins sur un point. Ce n'est pas une biographie de Pierre Poujade que j'ai fait, parce que je dirais que le personnage a effectivement eu une période très intéressante et d'autres périodes qu'il était moins. En revanche, l'épopée poujadiste telle qu'elle a eu lieu de 1953 à 1958 en France est effectivement tout à fait passionnante, riche d'anecdotes et tout à fait surprenante quand on la regarde aujourd'hui avec nos yeux de Français du XXIe siècle.
D'où le titre, Les années Poujade.
Les années Poujade.
Alors, je me suis dit que pour faire plus fort que Poujade, il fallait quand même se lever tôt matin. Alors j'ai demandé à Roger Hollande de venir. Monsieur Hollande, je vous salue bassement.
Content d'être là parce que tout le monde me demande pourquoi je ne viens plus.
L'objet vert qui est devant vous, c'est un micro. Oui. Si vous parlez, on dit bonjour micro.
Bonjour, bonjour. Heureusement que tu me dis que c'est un micro. Je pensais que c'était une glace à la framboise.
Bah oui, non, à la pistache. Là. Ensuite, je recevrai une dame, j'espère qu'elle va venir, qui s'appelle Constance de Champrix, qui s'occupe de psychogénéalogie. Elle a écrit un bouquin là-dessus. C'est très intéressant, la psychogénéalogie, parce que ça explique, c'est une tentative d'expliquer les comportements et les mentalités par les origines, enfin les événements de la famille. C'est-à-dire, on est un peu les enfants de ses parents. Est-ce que je me fais bien comprendre ?
J'ai bien compris, Jean Perrondeau, mais j'ai une psychogénéalogiste pour qui j'ai pas beaucoup d'estime.
Pourquoi ?
Bah, on en parlera peut-être tout à l'heure si ça vient au sujet, mais...
Mais c'est pas Constance de Champry, non, vous n'allez pas me casser mon cou.
C'est la fille de Bastien Théry.
Ah, ça c'est autre chose. Oui, mais bon, attendez, c'est pas parce que vous êtes fâché avec la fille de Bastien Théry que la psychogénéalogie n'a pas de valeur. Bon. Alors, je recevrai également Dominique Tasso et Julie Denain. Alors Julie Denain, c'est la nouvelle, je crois, porte-parole de l'association de Tasso. Et on fera le point sur le créationnisme. Ça, c'est pour faire plaisir à certains qui apprécient particulièrement le côté un peu étrange de cette émission. Voilà, parce que moi, je suis créationniste. J'ai même publié la date de la création du monde, qui était Goffman.
Le 11 février.
Mardi 11 février.
4023 avant Jésus-Christ.
Et alors,
quand vous avez déployé le libre journal qui portait cette date, le marquis vous a demandé à quelle heure. Moi, je me suis contenté de rire, moyennant quoi, je montrais sur le bûcher intact, tandis que le marquis passera à la question extraordinaire avant de monter sur le bûcher. C'est du moins ce que vous nous avez promis ce jour-là.
Bien sûr. Et ensuite, nous aurons Cécilia au téléphone, parce que Cécilia devait venir, mais... c'est curieux, les trains sont partiellement en grève. C'est invraisemblable. Et bien, vous voyez que ça arrive même en France. Donc elle ne peut pas venir et je recevrai donc à sa place Monsieur Jean-Marie Bardin, qui est le propriétaire du château de la Motte à Ussaud dans la Vienne, qui est c'est forcément quelqu'un de sympathique, parce que un homme qui achète un château en ruine pour en faire un beau château avec un jardin potager avec lequel il nourrit ses hôtes et un jardin médiéval dans lequel il cultive des plantes vénéneuses, ça ne peut pas être quelqu'un de totalement pas recommandable. Voilà, en gros, je crois que c'est ça qui était prévu. Alors,
est-ce que je peux commencer par un pan sur le Véquette ?
Ouais.
Ce n'était pas malheur au barbu, mais signé Furax.
Bien sûr.
Et on annonçait par ordre d'entrée en onde. Voilà.
Est-ce que je peux continuer pendant que vous buvez un coup à faire
il faut que je dise quelque chose sur ce que je vois.
En deux minutes, oui, Volvic, gourmande, pêcheur. Ah, vous ne buvez plus de thé à la menthe ?
Non, je n'ai pas trouvé là. Mais je voulais dire, justement, j'ai essayé ça. Alors, je vous le recommande, mais vous pouvez faire des économies. Vous mettez de l'eau du robinet dans une bouteille normale et vous versez dedans n'importe quelle eau de toilette.
Oh, quelle horreur.
Pourquoi pas du méthanol pendant que vous y êtes ?
Si vous voulez, chacun sa vie. Mais je vous recommande le Volvic gourmand Go pêche orange. Si vous résistez, c'est que vous êtes drôlement baraqué. Hein.
Bon, on n'aura pas d'ennui avec le CSA. Oui, Serge, je voulais vous demander la permission. Je voulais vous demander deux minutes pour faire la promotion du Libre du Journal imprimé, puisque, comme je vous l'ai dit, je dois partir très rapidement. Ça va consoler d'ailleurs les auditeurs qui en ont marre au bout de 6 heures de Beketch. Ça va leur faire deux minutes de Goffman et pas davantage. Donc on va pas perdre trop d'auditeurs. Au contraire, on va en gagner puisque nos auditeurs vont téléphoner à un ami, un parent qui a Internet pour nous en Australie ou ailleurs. Hein, il y a des trous dans notre diffusion. Radiocourtoisie.com. Voilà, c'est 30 secondes au téléphone pour nous faire gagner quelques auditeurs qui ne seront pas perdants eux-mêmes.
Ça remarche, Internet.
Ah Je n'en doute pas une seconde.
Non, Internet marche très bien. Ouais. Non,
Radiocourtoisie.com, oui, on peut s'abonner par Internet en ligne. Il y a un blog extraordinaire, radiocourtoisie-blog. Il y a toutes sortes de choses. En tapant Radio Courtoisie sur Google.
On peut faire des tas de choses.
Voilà. Mais on peut écouter la radio sur radiocourtoisie.com. Donc, appelez un ami, un parent de notre part. Ils ne seront pas déçus par cette émission, je pense. Avant de faire la promo du journal en deux minutes, j'ai une seule chose à dire à propos du débat de ce soir. C'est grâce à Minute que je le sais. Alors, Minute ne nous cite jamais, mais il n'y a pas de raison que nous, on ne les cite pas. Ça fait rien, on les cite quand même.
Plus d'abonnés qu'eux.
Tout le monde a entendu. C'est-à-dire que les médias ont répercuté très bruyamment la déclaration de Ségolène aux Antilles. Une déclaration bien gentille.
Ça va casser.
Ça va casser, mais surtout, je veux être la présidente d'une France métissée. Et personne, sauf Minute, et nous ce soir, n'a relevé qu'elle a copié sur Sarko, qui a dit textuellement la même chose le 14 janvier au Palais des Congrès. Il l'a dit, il était le prom à dire qu'il voulait. Et alors, moi, ça, si je le signale, c'est que quand dans le Libre Journal numéro 395 ou 96, nous disons, nous expliquons que Ségo et Sarko sont les deux faces d'un unique candidat mondialiste, certains nous rionnaient et disent non, il y en a une qui est de gauche, l'autre qui est de droite, et ils nous expliquent les différences formidables, le choix que ça constitue pour les électeurs. Voilà une preuve de plus du contraire. Ségo et Sarko viennent d'expliquer qu'ils avaient le même programme sur la défense. Ils viennent de se déclarer tous les deux candidats à la présidence d'une France métissée. C'est un seul et unique, il n'y a pas de choix entre deux, c'est un seul et unique candidat.
Alors c'est la seule chose qu'on retiendra de Ségolène d'ici 2-3 ans, quand on dira Ségolène Royal, les gens diront métissée celle-là.
Ben écoutez, c'est bien probable et c'est ce que nous allons démontrer dans le Libre Journal imprimé prochainement. Mais j'en dis pas plus, ça va être un article saignant. Alors Serge, là, comme je vous ai abandonné hier pour le bouclage à l'imprimerie, ma promo du Libre Journal, avant de donner l'adresse, ça consiste à dire, Serge, qu'y a-t-il dans le Libre Journal numéro 398?
Il y a des papiers d'un extrême intérêt. Il y a notamment un papier sur Ségo. Ouais.
Encore?
Oui, parce qu'il y a plein de choses à dire sur elle. Et là, en ce moment, je crois qu'elle est très très mal barrée, hein, franchement. Les éléphants ont décidé d'avoir sa peau. Et
Ségolène, mets ta petite laine, oui. Le temps
fraîchit. Alors, en plus, il y a un papier de Brignot intitulé « Ségolène, mets ta laine, le temps fraîchit », qui est un joli papier, comme d'habitude. Il y a un très très beau papier d'un collaborateur, hélas, épisodique, qui s'appelle Nicolas Bonal, et qui a écrit deux pages sur le film Apocalypto. Mais c'est pas une critique de film, c'est une réflexion sur un film. Et c'est très très bien, ça donne bien à réfléchir. Il y a un papier de Michel Blanza qui explique, à propos d'un autre film qui va paraître prochainement...
Michel Blanza, que vous avez repiqué à Balcon Info, alors.
Et moi, je ne pique rien à personne. Michel est venu me proposer un papier que j'ai accepté, parce que c'est un garçon extrêmement intelligent, qui est d'une grande pertinence et d'une grande pénétration. Et j'étais très content qu'il me propose ce papier. Et il explique que le film... Il explique une formidable arnaque. Le film qui s'appelle « Blood Diamond ». Qui raconte une histoire de...
Comment vous traduiriez-vous en français ?
Diamant sanglant.
Ah oui. Non, parce que Monsieur de Lesquin a traduit... Monsieur de Lesquin l'a traduit l'autre jour, je ne sais plus.
Mais il traduit comme mieux. Peut-être que l'anglais qui est enseigné à Polytechnique et à l'ENA n'est pas le même que celui que j'ai appris à l'école militaire.
Ça voulait dire
c'est
la même
probable,
chose, hein.
D'ailleurs.
Ça voulait dire la même chose. Mais il avait traduit, lui.
Oui, ben voilà.
Exactement.
Diamant sanglant, c'est comme ça que je le traduirais. Et en fait... Ce qui est amusant, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand le film a été annoncé, immédiatement la Devers s'est montée au filet en disant c'est une attaque contre une industrie respectable, etc. Et Blanza a découvert que tout ça est un coup monté, c'est-à-dire que le film lui-même est un coup monté par la Devers pour, en deux mots, accréditer l'idée qu'il ne faut surtout pas acheter des diamants qui viennent des régions en guerre, parce que ça sert à payer les armes, c'est bon. Le problème, c'est que qui décide de quelle région viennent les diamants ? C'est les gens de la Devers. Alors, donc, ils peuvent expulser certains diamants du marché. Pourquoi expulser les diamants du marché ? Parce que le marché est bourré. 95% des Américains possèdent un diamant. Donc le marché est sursaturé. Et il faut savoir une chose, c'est que le diamant en soi ne vaut rien. Il n'a aucune qualité. Bon, il sert simplement d'abrasif dans l'industrie. Et donc il y a une espèce de mouvement de panique qui se produit sur le diamant en ce moment. Alors il fallait absolument épurer le marché, le réduire le marché, ou plutôt le réduire la quantité de matière disponible. Alors l'idée, c'est de dire, ça vient des zones en guerre, et si vous achetez ces diamants-là, vous alimentez les guerres tribales. Il faut acheter que les diamants de la De Beers qui sont garantis, estampillés diamants pacifiques. Voilà, donc à lire un article vraiment très très intéressant, c'est le deuxième article de la série.
Dans les années 80, il y a eu un crack déjà du diamant, et notamment en France, enfin pour certains Français, puisque certains banquiers en gestion de patrimoine vendaient du diamant qui n'était pas un diamant bijou, mais un diamant garantie, certificat, etc. Et donc, y compris des parts de diamant, les gens achetaient des parts de diamant à des réseaux de vendeurs, et il y a eu un gros crack à l'époque.
Alors je crois qu'il y a notre divin marquis de Olmeta qui est absent ce soir, est également, il est présent quand même dans le Libre Journal, mais il nous emmène en promenade sur le funiculaire de Montmartre où il réside.
Ce qui est amusant, c'est qu'il est au Vietnam en ce moment et qu'il arrive à nous faire un papier sur le funiculaire de Montmartre. Je pense que quand il sera rentré à Montmartre, il écrira un papier sur le Vietnam.
C'est logique, voilà.
Alors, c'est un bon numéro.
C'est un bon numéro, donc si on veut se promener dans la collection du Libre Journal gratuitement, c'est le site des amis du Libre Journal qui s'appelle francecourtoise.info. Si le numéro 398 dont nous venons de parler vous intéresse, vous envoyez 5 € ou un carnet de timbres. Et si vous voulez vous abonner pour un an, vous envoyez 110 € à SDB, 4 Place France List, 75010, Paris.
Et alors, il y a encore quelque chose qui est amusant. On publie une photo du maréchal Pétain. Vous me direz, ça, c'est pas exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le portrait officiel du maréchal Pétain dans son jus, si j'ose dire. Le portrait, pas le maréchal. Et le propriétaire de ce portrait l'avait mis en vente sur eBay. Je crois bien que c'est eBay. Je ne veux pas que je dise de bêtises. Mais il me semble bien que c'est... Et, en tout cas, sur un site internet de vente. Et alors, il a reçu un avis que son... Il était radié de ce site parce que, au nom de la loi, pour protéger les victimes de tragédies, la mise en vente de photos du maréchal était absolument interdite. Alors on publie la photo, si vous voulez l'acheter, ils ont pris 25 €.
Je suis un peu devin, est-ce que nous ne publions pas un dessin de Volinsky à côté
de... Non, ça a été reporté à une date ultérieure parce que c'est trop rigolo, je ne veux pas le gâcher comme ça. En revanche, il y a une très très belle photographie de Ségolas Sarkolen que je vous recommande dans Libre Journal. Si vous n'êtes pas sur Internet, parce qu'elle est sortie sur Internet, et c'est ce qu'on appelle une photo de morphing, c'est-à-dire ils ont mélangé le visage de... Le technicien qui a fait ça a mélangé le visage de Sarko et la tête de Ségolen, et c'est quand même pas mal du tout.
Encore un qui apporte de l'eau à notre moulin, c'est un Janus, c'est un candidat unique à deux faces pour le mondialisme.
France.
Serge, j'ai la main sur la porte, donc je salue auditeurs, auditrices. Avant, vous m'accordez encore 30 secondes pour dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre Les années Poujade de notre ami Thierry Bouclier, à qui vous allez parler, parce que pour moi, comme pour la plupart des gens, Poujadiste, c'était une insulte. Je savais vaguement que Le Pen avait fait ses débuts comme député poujadiste, et c'est tout. Et j'ai découvert, par exemple, qu'à son origine, le poujadisme était monté en association avec le Parti communiste, avant de faire élire Le Pen. C'est quand même...
Le Pen élu du parti, ça c'est une...
C'est quand même... C'était quand même effectivement une épopée et quelque chose d'intéressant. C'est un très bon livre, très lisible. C'est tout ce que je voulais dire, c'est que c'est très lisible. On peut se coucher avec, on passe une heure et demie passionnante et on s'endort et on fait de beaux rêves.
Merci, ben ça nous fait gagner du temps. Bon. Merci d'être venu. Salut Patrick, à bientôt.
Bonsoir les amis.
Voilà, alors maintenant, avant de donner la parole à Roger, mais Roger aura la parole parce que tu as été toi dans le mouvement poujadiste
ou pas du
tout?
Non, je n'ai pas été poujadiste.
Tu n'as pas été poujadiste?
Non, j'étais en Indochine à ce moment-là.
Ah oui, tu étais occupé à autre chose.
Oui, j'étais occupé à autre chose.
Et, tandis que vous, Victoria, vous étiez mêlée à tout ça.
Moi, j'ai été mêlée à tout ça. Ouais. J'en ai gardé des souvenirs, je veux dire, assez joyeux.
Bon, bah, il ne faut pas hésiter à nous les raconter.
Parce que moi, je crois que ça a été une grande aventure quand même.
Alors, Et moi, la première chose que je découvre quand j'ouvre ce bouquin, c'est que pour moi, c'était simple. Hein. Poujade, c'était le papier de Saint-Céré, c'est ça, hein?
Tout à fait, oui, c'est ça, oui, dans le
Alors, j'imaginais, j'ai un vague souvenir d'enfance de Poujade, je vois une espèce de commerçant en blouse grise, un peu translucide, comme ça, un peu bougon, rondouillard et tout. Et quand non, mais c'est le souvenir que j'ai.
Ah, oui, oui, oui.
Vous savez, on reconstitue beaucoup ces souvenirs quand on est enfant. Après, on les reconstitue en fonction de ce qu'on entend autour de soi. Et même si on est, comme j'ai toujours été de droite, à force d'entendre dire que les Poujadistes sont des imbéciles, c'est des comportements de vieux commerçants arriérés et tout, on finit par se faire une image du personnage. Et j'ouvre votre bouquin, et vraiment j'arrivais là-dedans en toute ignorance, et je découvre un personnage qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, mais même de très loin, parce que c'est un héros ce type au départ.
Alors, pour resituer un petit peu effectivement les événements pour les jeunes auditeurs comme vous, Serge, qui auraient oublié ou qui n'auraient pas appris ce qu'était le poujadisme, Pierre Poujade effectivement était un commerçant du Lot, un papetier, né en 1920, et en 1953, il se retrouve à la tête d'une véritable jacquerie contre les inspecteurs des impôts. Jacquerie qui démarre au début avec quelques commerçants.
Excusez-moi, je vous allez trop vite, parce que moi je fais quand même allusion à ce qui se passe dans les années 40, enfin, quand il est tout jeune. Alors, homme et après
quand il est tout jeune, effectivement, Poujade a eu un engagement politique assez limité. Il a eu son premier engagement politique en 1936, où il a quelque peu milité au sein des jeunesses doriotistes, ce qui d'ailleurs lui a été beaucoup reproché par la suite, notamment lorsqu'il a rencontré son succès électoral en 1956. Donc il milite très peu de temps avec les jeunesses doriotistes.
Il avait 16 ans.
En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle plus important dans les Compagnons de France. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Compagnons de la Chanson venaient des Compagnons de France. Donc, c'était une organisation proche du maréchal Pétain qui prêchait la Révolution nationale. Et donc, Poujade a pris des responsabilités au sein des Compagnons de France.
Yves Montand aussi, hein.
Yves Montand aussi, c'est exact. Donc voilà, Poujade, avec ses Compagnons de France, apprend un petit peu à mener les hommes, à être un meneur d'hommes, ce qu'il va faire effectivement en 1941-1942. Comme beaucoup de membres des Compagnons de France, il va rejoindre la France libre à partir de 1942, lorsque les Américains vont débarquer en Afrique du Nord, et il va essayer de jouer un rôle important au sein de la France libre. Son rôle sera finalement assez limité, et il revient en France en 1944-1945, en pleine période d'épuration. Et là, sa conscience politique va s'éveiller dans la mesure où, devant le spectacle affligeant de cette année 44-45, Poujade va à la fois devenir et anticommuniste et anti-gaulliste. Mais finalement, en 45, il reprend une vie professionnelle classique, tout à fait banale, qui n'a rien d'extraordinaire, jusqu'à 1953, où, à la suite de la création en 1948 de la Direction générale des impôts et du renforcement du contrôle fiscal, des contrôles fiscaux de plus en plus tatillons s'abattent sur les commerçants, ce qui va pousser Poujade à prendre la tête de la révolte fiscale contre l'administration fiscale.
Alors, comment, qu'est-ce qui le détermine vraiment? Est-ce qu'il y a un événement qui le détermine à s'engager dans ce...
Alors, ce qui va le déterminer, c'est qu'en juillet 1953, on annonce dans le petit village de Saint-Céré que 33 commerçants vont être contrôlés. Et c'est un conseiller municipal communiste qui va venir voir Poujade et qui va lui dire: demain, les contrôleurs fiscaux arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Et Poujade lui dit: eh bien, c'est simple, les contrôles fiscaux n'auront pas lieu. Et effectivement, lorsque le lendemain les inspecteurs des impôts arrivent à Saint-Céré, Poujade se retrouve devant les boutiques qui vont être contrôlées, et il fait comprendre aux inspecteurs des impôts que les contrôles fiscaux n'auront pas lieu. Et ce qui est au départ...
Il explique bien le monsieur là. Hein.
Ce qui est au départ un...
Je parle de Poujade. Il explique bien. Vous savez, vous connaissez le vieux gag. C'est une vieille histoire de après, en Afrique du Sud, quand les les banques ont été libérées de l'effroyable oppression de l'apartheid. Il y a un jour un Africain qui vient dans la banque et qui veut se faire payer son chèque. Et on lui dit, non, on peut pas payer le chèque, il faut ouvrir un compte et déposer l'argent et après retirer l'argent. Et le type, il a toujours apporté son chèque et on lui rembourse jamais. Et on lui avait toujours remboursé. Et là, on veut plus. Alors il va dans la banque, il explique à tout le monde les uns après les autres qu'il veut son chèque. Et les dirigeants de la banque qui appartiennent à l'ethnie dominante essayent de lui faire comprendre que c'est pas possible. Et puis le gars ne comprend pas. Et alors finalement, on le conduit au fin fond d'une cave où il y a dans un bureau complètement planqué un vieil employé qu'on n'a pas osé virer, bien qu'il soit blanc. Et on dit au blanc, explique-lui qu'on peut pas lui payer le chèque. Alors le blanc dit, entre, il ferme la porte, on entend des cris, des coups, etc. Et le client sort en disant, là, il explique bien le monsieur, là. Voilà. C'était ce que je voulais dire en parlant des... Donc il a bien expliqué au...
Donc il a bien expliqué à l'inspecteur des impôts que le contrôle fiscal n'aurait pas lieu. Donc l'inspecteur des impôts repart, et ce qui était au départ un incident purement local, situé dans une petite bourgade du sud de la France, eh bien va se répandre dans les semaines qui vont suivre à travers toute la France.
Alors, comment s'agglomère-t-il parce que bon, au départ, ça paraît un peu fou. C'est-à-dire, bon, un commerçant qui est pas content d'avoir un contrôle fiscal ou qui n'est pas content que ses copains aient un contrôle fiscal. Bon, on voit ça pratiquement tous les jours. Ils se mettent devant la boutique ou devant l'exploitation. Ils disent au contrôleur, écoutez, foutez le camp parce que ça va mal tourner. Vous allez vous faire casser la figure. Ce qui serait très très mal, je m'empresse de le dire. C'est à manipuler avec précaution. Ça, c'est comme l'alcool et le tabac. Je désapprouve. Mais il y en a qui le font. C'est un constat que je fais. Et donc, ils leur disent ça, mais ça arrive tout le temps. Et qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, ça provoque une espèce de coagulation des mécontentements?
Alors, une raison essentielle, c'est que jusqu'au début des années 1950, je dirais, les contribuables, les commerçants, les artisans, tenaient des comptabilités extrêmement sommaires. Et à partir du début 1950, ils vont être astreints à des règles beaucoup plus rigoureuses auxquelles ils n'étaient absolument pas habitués. Ce qui fait que lorsque les inspecteurs des impôts arrivent dans une boutique, dans un commerce, eh bien, les commerçants se trouvent rapidement désemparés et se retrouvent à payer des amendes absolument astronomiques pour l'époque. Donc il y avait quand même un certain malaise, un grand mécontentement dans cette classe de commerçants et d'artisans, ce qui fait qu'il y avait un terreau pour que, je dirais, la révolte puisse prendre. Et puis surtout, Poujade va se démener. Dès qu'il apprend qu'un contrôle fiscal a lieu, il prend sa camionnette, il se rend dans le village où le contrôle doit avoir lieu, il rassemble 1, 2, 3, 10 commerçants, et à chaque fois, il met les inspecteurs des impôts en échec. Une fois que cette première opposition a eu lieu, il crée un comité local, d'abord provisoire, puis définitif, si jamais il voit qu'il peut s'appuyer sur des gens suffisamment sérieux, et il passe au village suivant. Et c'est ainsi que, de jour en jour et de semaine en semaine, eh bien, des comités de défense locaux vont se créer et vont finir par réussir à mettre les inspecteurs des impôts systématiquement en échec.
Alors, comment de cette situation, qui est finalement classique, parce que de Robin des Bois à Beauvais, c'est ça, il y a toujours le même processus en quelque sorte, qui consiste à coaguler des mécontentements.
Ça fait, oui.
Et à essayer de créer, mais ça n'a jamais marché, on n'a jamais créé de parti, on n'a jamais créé d'organisation politique, sauf Poujade quand même, qui est arrivé à créer un vrai mouvement politique.
Sauf Poujade qui est arrivé à créer un vrai mouvement politique, qui a eu plus de 400 000 adhérents. Ce qui est quand même assez extraordinaire,
un jour de cotisation,
qui a réussi à organiser une réunion, pas un meeting, à la porte de Versailles en janvier 1955, qui a rassemblé près de 200 000 participants. Donc 200 000 participants, aujourd'hui, ça paraît absolument extraordinaire. Je crois que M. Sarkozy s'est félicité d'avoir réuni, je crois, 30 000 personnes ou 40 000, je ne sais plus exactement, pour son intronisation. Là, Poujade, lui...
Dans la salle, il n'y avait pas plus de 18 000 places. Mais enfin,
Alors donc 18 000 personnes.
Trois couches comme les réunions de. Comment ça s'appelle les écharpes, je ne sais plus, enfin un truc, mais bref. Pardon.
Donc voilà, donc lui, Poujade rassemble près de 200 000 personnes, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent, et réussissant à coaguler et à rassembler tous les mécontents, il va décider, fin 1955, de présenter des candidats aux élections législatives, et là, ça va être le véritable raz-de-marée, puisque Poujade aura 2 600 000 voix et 52 élus.
Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un fond d'extrême droite ou un fond simplement de fronde ou de jacquerie, hein?
Alors, il y avait essentiellement au départ un fond fond de Jacquerie. Notamment, vous le rappeliez tout à l'heure, au départ, Poujade, même s'il si est à droite, son épouse m'a dit il était à droite parce qu'il n'était pas à gauche. Voilà, il n'y avait pas plus de formation de droite que cela. Au départ, les communistes vont d'ailleurs soutenir Poujade, vont essayer de noyauter son mouvement, essayer de le récupérer pour l'intégrer dans leur combat politique. Donc au départ, je dirais, il n'y a pas du tout de... Et d'ailleurs, les principaux lieutenants de Poujade au départ seront communistes. Donc au départ, il n'y a absolument aucune politisation du mouvement. Le mouvement va commencer à se politiser lorsque Poujade va tenir son premier congrès en 1954 à Alger. Un congrès qui a lieu en novembre 54, donc juste après les premiers assassinats de la Toussaint en Algérie. Et donc là, Poujade et un grand nombre de ses partisans vont résolument s'orienter dans le combat pour la défense de l'Algérie française. Et là, bien évidemment, ils vont être rejoints par des militants politiques qu'on peut classer à droite, voire à l'extrême droite.
Sa femme est pied noir, d'ailleurs.
Sa femme est pied noir d'une famille communiste.
À Alger, enfin en Algérie, dans les provinces, les départements français d'outre-Méditerranée à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de socialistes et de communistes.
Tout à fait,
qui n'envisageaient même pas
l'Algérie, puis ça s'en dépendait autre chose.
Donc, qui ont déchiré leur carte du Parti communiste, notamment à Bab el-Oued ou dans le quartier de la Marine à Oran, oui.
Comment Le Pen entre-t-il dans cette organisation?
Alors, Le Pen entend parler de Poujade alors qu'il est en Indochine. Il a un journal lui tombe entre les mains. Effectivement, il voit que Poujade s'en prend à la 4ème République, qui était totalement agonisante et d'ailleurs qui allait mourir 2 ans plus tard. Donc, lorsque Le Pen revient à Paris, il revient en colère suite à l'abandon de l'Indochine et les conséquences surtout dans lesquelles cette Indochine a été abandonnée, bradé notamment par Mendès France. Donc Le Pen revient, il a 27 ans, c'est un jeune homme en colère contre la classe politique de l'époque et il décide de se présenter aux élections. Et c'est Roger Delpé qui va décider de présenter Le Pen à Poujade et les deux hommes se rencontrent et s'aperçoivent que finalement leurs intérêts sont convergents et donc Le Pen sera candidat poujadiste à Paris et il sera élu.
Et alors, les relations avec les deux hommes, parce que bon, il est élu, donc il est dans l'entourage direct de Poujade, mais ils avaient de bonnes relations
Alors, ils avaient de bonnes relations au départ. Les relations se sont rapidement envenimées entre les deux hommes, puisque Le Pen a été élu député le 2 janvier 1956. Il est très souvent intervenu à l'Assemblée nationale. Il était d'ailleurs le seul, quasiment, orateur du groupe, parce que il faut le préciser, sur ces 52 députés, aucun n'était un professionnel de la politique. Se sont retrouvés députés, le garagiste, le boulanger, le pâtissier, qui finalement n'avait jamais quitté son village et qui du jour au lendemain s'est retrouvé siégeant à l'Assemblée nationale. Donc Le Pen était le seul orateur quasiment du groupe à l'Assemblée et il a donc fait effectivement beaucoup d'interventions. Tandis que Poujade, lui, n'avait pas été élu. Il n'avait pas été élu parce qu'il n'avait pas été candidat. Poujade avait un certain mépris, disons-le, pour les parlementaires. Il estimait que son action serait beaucoup plus efficace à l'extérieur du Parlement plutôt qu'à l'intérieur. Donc Poujade avait décidé de ne pas se présenter. Donc,
c'est quand même la différence fondamentale entre... Enfin, la différence la plus marquante, la plus déterminante entre Poujade et Le Pen, c'est que Le Pen a toujours considéré que il devait passer au feu des élections. Je me souviens de conversations qu'on a eues il y a 30 ans où il disait il n'y a pas d'autre solution pour accéder aux responsabilités que de passer par le fonctionnement démocratique normal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit élu par une majorité du peuple français, et tant qu'on n'aura pas obtenu ça, on n'aura aucun titre à
voilà. Alors, participer c'est ou vrai à, que à appartenir à un gouvernement. C'est quand même toute la différence, je dirais, entre le Front National aujourd'hui, ou d'ailleurs dès 1972, ou le mouvement Poujade, c'est que le mouvement Poujade n'était pas à l'origine un mouvement politique. Ouais. C'était un mouvement qui n'avait pas vocation à présenter des candidats, qui n'avait pas vocation à avoir des élus. Donc, finalement, finalement, Poujade s'est un petit peu laissé entraîner, peut-être malgré lui, sur le terrain électoral, et voyant qu'il ne pouvait pas échapper à cette politisation de son mouvement, a quand même décidé, lui, de ne pas se présenter aux élections.
Il a empêché aussi tous les, enfin, son entourage direct.
Voilà.
C'est curieux comme comportement, parce que c'est un comportement suicidaire politiquement. Il est évident que si ni lui, ni aucun de ses lieutenants alors, c'est, fidèles directs se présentent,
c'était effectivement,
le mouvement va lui
c'était effectivement la consigne, c'est que tous les dirigeants de l'UDCA, l'Union de Défense des Commerçants et Artisans, avaient interdiction de se présenter. Et donc Le Pen, lorsque je l'ai rencontré, m'a raconté cette anecdote. Lorsqu'il fallait choisir une tête de liste pour mener une liste, le Poujade lui a dit « Entre deux candidats, tu choisis le plus con ». Voilà. Et donc finalement, les poujadistes, je dirais, les dirigeants les plus brillants sont restés à l'extérieur du Parlement et ceux qui ont été élus n'étaient pas les éléments moteurs du mouvement.
Le
Poujade avait dit ça à Le Pen. Oui.
Il n'a pas obéi, Le Pen, hein.
Donc Le Pen lui est élu. Vous aviez également à l'époque des gens qui y avait Jean-Maurice de Marquet qui était à l'époque un ami de Le Pen.
C'est quand même extra, c'est déterminant hein, cette histoire là. C'est absolument déterminant parce que je pense que ça crée un mécanisme mental chez Le Pen ça. Le fait de dire s'il faut choisir des candidats, tu choisis le plus con.
Vous pensez qu'il a renouvelé le non
il
a...
Des noms.
C'est pas non. Je dirais pas que c'est systématique, mais ça fait partie. Écoutez, je connais depuis beaucoup moins longtemps que Roger, mais ça fait presque 40 ans et ça fait 40 ans cette année d'ailleurs. Ouais. Et il y a ce mécanisme mental qui fait que au fond. Il se dit que s'il veut être obéi au doigt et à l'œil, le petit doigt sur la couture du pantalon, il ne faut pas qu'il s'embarrasse avec des disputes ailleurs.
Je crois qu'il ne faut pas dire ça, parce que les 35 députés qui ont été élus grâce à Le Pen, il y avait
des brillants.
Je ne généralise pas.
Oui, on était le meilleur groupe de l'Assemblée nationale, c'est sûr et certain.
Une généralisation du tout que je fais. C'est peut-être pas pour les élections, mais pour d'autres considérations, je crois que je suis pas loin d'avoir
raison. Que aussi bien Le Pen que Poujade, à l'époque, surtout Poujade, rentrait en politique. Il n'y connaissait pas grand-chose.
Mais tu avoueras quand même que c'est un comportement étrange de dire.
C'est bizarre qu'il ne se soit pas présenté. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu d'autres problèmes qui sont déjà arrivés, ou des gars aussi qui pouvaient être élus ont fait lire leur gant en disant moi je reste à l'extérieur pour tenir la baraque, mais la baraque que tu la tiens quand tu es à la tête de ton groupe.
Voilà. Ça me paraît évident.
Tout à fait. Alors ce que dit Roger Nadel est exact, puisque rapidement, effectivement, Poujade n'étant pas au Parlement, son groupe va lui échapper très rapidement. Et donc finalement, 52 députés sont élus en 56, 52, mais 12 sont immédiatement invalidés. Puisque sous un motif assez fallacieux, d'apparentement abusif, 12 députés poujadistes vont perdre leur siège, et le fait de perdre son siège, la sanction était immédiate, puisque les 12 qui avaient été battus par les 12 élus prennent leur place automatiquement.
Voilà.
Les candidats ne retournent pas devant les élections. Et en réalité, si ces 12 candidats, si ces 12 députés ont été invalidés, c'est parce que avec moins de 50 députés, le groupe parlementaire ne pouvait plus modifier l'ordre du jour de l'Assemblée. Et donc, en ne pouvant plus modifier l'ordre du jour de l'Assemblée, leur pouvoir d'intervention était considérablement réduit.
Et ça, c'était avant De Gaulle. À l'époque, c'était...
Tout à fait, c'était la 4ème République, oui.
C'était la 4ème République, donc le président de la République, c'était Auriol.
Oui, tout à fait.
Et le Premier ministre qui changeait tous les 15 jours.
Voilà. Quand les poujadistes ont été élus, c'était Edgar Faure.
Edgar Faure. Ça, c'est typiquement une crapulerie d'Edgar Faure.
Une crapulerie d'Edgar Faure, oui et non, parce que c'était un système qui avait été mis en place en 1951. La loi sur les apparentements datée de 1951, et le fait d'interpréter cette loi sans apparentement de manière tout à fait abusive et extensive, c'est plutôt, je dirais, les députés qui avaient été battus, notamment Alfred Coste-Fleuret, qui avait l'habitude d'être élu et réélu sans difficulté, et donc les battus ont mal accepté leur défaite, et donc ont fait en sorte que les députés qui avaient été élus à leur place soient invalidés.
Oui, ça montre bien quand même que la canaillerie en politique, c'est pas vraiment une nouveauté. Hein.
Non, c'est vrai que les mœurs... mais je dirais que les mœurs sous la 4ème République étaient peut-être, c'est ce que Le Pen m'a expliqué, que étaient quand même un petit peu plus courtoises. Oui. Dans la mesure où, notamment, Le Pen, un jour, lors d'un...
Le vaseline était plus gros, c'est ça.
Non, lors d'un discours, Le Pen maltraite de manière tout à fait, je dirais, presque méchante, Edgar Faure. Et après son discours, Edgar Faure se précipite vers Le Pen. Donc Le Pen pense que Edgar Faure va le provoquer en duel. Et finalement, Edgar Faure lui dit, voilà, vous avez été formidable, vous avez un bel avenir devant vous.
Quel talent.
Ouais, il était prêt à tout, Edgar Faure. Moi, je pense que c'était un agent soviétique. J'ai toujours pensé que c'était un agent. Et vous savez qu'il parlait russe parfaitement.
Non, je ne savais pas. Non.
Parfaitement. J'ai toujours pensé qu'il était un agent soviétique.
Riche. Aussi voir le contexte, c'est qu'à l'époque, par exemple, Tixier-Vignancourt n'était pas maltraité comme l'a été plus tard Le Pen au niveau politique.
Ouais, mais Tixier était du Sérail.
Voilà.
Oui, c'est vrai que, pour revenir à Tixier-Vignancourt, c'est vrai que lorsque j'avais sorti sa biographie il y a 3 ans, j'avais été surpris, les avocats du nombre impression d'avocats du barreau de Paris notamment qui m'avaient écrit, téléphoné pour me dire, écoutez, nous on est de gauche, nous on était des adversaires de Tixier-Vignancourt, mais ça reste un confrère et on est très content que vous ayez fait cette biographie sur lui. Donc c'est vrai que...
Est-ce qu'il y a quand même un parallèle en dehors des relations particulières avec Le Pen, parce que ça c'est quand même il y a une constante là, mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'aventure Tixier et l'aventure Pujade?
L'aventure Tixier-Poujade ou Le Pen-Poujade?
Non, je dis, en dehors des relations qu'ils ont entretenues, conflictuelles tous les deux, avec Le Pen, est-ce qu'il y a d'autres ressemblances entre Poujade et Tixier dans la façon dont ils ont monté leur...
Alors, je dirais, pas tant que ça, parce que, alors, ils ont un point commun, aussi bien Tixier que Poujade, il s'agissait d'orateurs tout à fait exceptionnels et hors pair. D'ailleurs, c'est un des 3 points communs entre Tixier, Poujade et Le Pen, et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles les 3 hommes ne se sont
Poujade
pas toujours...
Bon orateur.
Ah, Poujade était un orateur absolument extraordinaire, capable de prendre la parole et de ne la rendre que 2 heures après, parlant sans notes, alternant les références historiques, les bons mots, étant grave, comique. Voilà, c'était un orateur tout à fait exceptionnel.
C'était un tribun.
Un tribun, oui.
Alors vous qui l'avez bien connu, Victor, parce que ce que nous raconte Thierry Bouclier, c'est le personnage, c'est le personnage dans l'histoire. Mais vous, dans le privé, quel regard vous posiez sur lui? Comment il était? Il était gentil, il était marrant, il était sympa,
il était... Il était tonitruant, il était méridional, il était gay, oui. Et on le voyait pas énormément, hein, mais en scène...
Mais il était distant ou...
Ah, pas du tout, il était... C'était le style jovial. Mais quand il était vraiment à la tribune, il était extraordinaire, parce qu'il vous sortait de votre fauteuil.
Ah ouais?
Ah oui. Ah oui, ça a été...
Mais comment on arrive à monter une légende noire autour de Poujade? Parce que tout le témoignage qu'on a, là, par vous, par Victoria, on voit se dessiner un personnage qui est extrêmement... qui est totalement étranger à l'image qu'on en a aujourd'hui. Là. À travers ce que vous dites, Poujadis, ça devient un compliment.
Ah, alors surtout...
Oui, c'est passé des choses depuis.
Mais je crois que notre ami qui a écrit un bouquin peut nous expliquer tout ça très clairement. Mais moi, je pense que c'est le mot poujadiste, parce qu'ils avaient 2-3 bœufs dans le lot. Voilà. Et les journalistes se sont un peu acharnés sur des gars qui étaient de braves épiciers, mais un peu concons sur les bords. Voilà. D'où le mot poujadiste qui est devenu péjoratif immédiatement.
Oui, mais le péniste, on pourrait dire la même chose. Je veux dire, le péniste, c'est quand même, dans l'idée des journalistes, c'est quelque chose d'infamant d'être le péniste. Or, ça ne marche pas, ça ne prend pas comme ça. Mmh. Tu vois, l'image qu'on a du le péniste, c'est un type qui est dur à la toile, qui ne se laisse pas emmerder, qui dit ce qu'il a à dire, et puis, qui est droite, voilà, etc., même centre-droite, on dirait. Tandis que l'image du poujadiste, on a l'impression, comme tu dis, du bœuf, quoi. Pas de plat.
Mais ce que vient de dire notre ami, c'est vrai, il y avait 2 orateurs Hein, il y avait Le Pen et Poujade, voilà. Et en dehors de ça, il y en a un ou deux peut-être, dont celui qui était rentré dans l'OAS après.
Oui, Marcel Bouillet, oui.
Ah, voilà.
Marcel
Bouillet, oui. Voilà, ça volait moins haut, mais c'était le seul à peu près. Les autres étaient des braves, épiciers, quoi.
Il y avait De Marquet aussi.
Il y avait De Marquet.
C'est brillant.
Et il y avait le commissaire Did.
Non, mais Did, oui. Serge, je pense que vous êtes un peu distancé, parce que... dans l'image qu'on veut faire passer et qu'on a fait passer pendant longtemps, l'électeur du Front National était aussi quelqu'un un bas de gamme et etc. Donc
c'est ce qu'ils ont aussi, mais ça n'a jamais vraiment pris.
Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, le groupe Front National, il s'attendait à voir le groupe Poujadiste.
Voilà.
Enfin, les gars qui ne connaissaient rien à la politique, mais il y a toujours des jeunes journalistes qui connaissent pas grand chose. Bon. Hein. Et les mecs s'attendaient à ce qu'on se torche dans les rideaux, qu'on pisse dans les couloirs. Enfin, non, mais c'est, je vous jure, c'est vrai. Et quand ils ont vu les interventions où on était le seul groupe politique où tout le monde intervenait, parce que là aussi tout le monde en France parle politique, mais dans les groupes politiques, il y a un ou deux gars qui parlent. Le Pen faisait parler tout le monde. Bon, moi c'est vrai, j'intervenais plus que les autres sur un tas de sujets. Mais tout le monde parlait au groupe Front National, Rassemblement National. Ça n'était pas du tout le cas chez Poujade.
Chez Poujade, il venait pas pour faire de la politique, il venait pour défendre les intérêts des commerçants et artisans. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est.
Et puis Bonpo avait été élu, c'était la grande surprise, il s'y attendait pas du tout, quoi.
Alors il y a une chose quand même qui montre à quel point les mécanismes de la propagande sont toujours les mêmes, ils n'ont jamais changé, c'est le fait que Poujade avait été surnommé Poujadolphe.
Voilà.
Alors qu'il avait, fait une très belle guerre, il avait eu une très belle attitude.
Tout à fait.
Pendant la guerre, pendant la libération, etc.
Voilà. Alors effectivement, on a retrouvé, en 1955, il avait pendant 15 jours collé quelques affiches pour Doriot, donc cela a été monté en épingle.
Enfin, Doriot avant d'être ce qu'il
avait
été
pendant
l'occupation,
oui.
Ça a été un héros magnifique. Je rappelle quand même qu'il a été décoré, il était considéré comme un très grand bonhomme, enfin. Donc c'est toujours cette espèce d'erreur, de mensonge.
Un anachronisme, effectivement. Voilà, oui, on a assimilé le Doriot de 1936, qui effectivement à l'époque n'avait rien de
reprocher,
d'irrépréhensible, avec le Doriot effectivement de la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, dès que Poujade a connu son succès, finalement pour l'abattre, effectivement, c'était l'Express qui l'avait surnommé Poujadolphe, et puis il y a eu effectivement tout un amalgame, tentant et essayant de le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite, et qui dit extrême droite dit nazisme, dit fascisme et toutes les caricatures qui vont avec.
Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer, ça a failli se produire, notamment on a vu au moment de Nikou par exemple, on a vu peut-être quelque chose qui pouvait ressembler à l'insurrection poujadiste ou à l'insurrection de Poujade et de ses amis, mais insurrection politique, je dirais, légale. Est-ce qu'aujourd'hui encore ça pourrait arriver, ce genre d'événement, d'après vous?
Moi, ça me semble extrêmement difficile. Il faut quand même se souvenir qu'effectivement, à l'époque, la télévision n'existait pas, la radio existait, mais elle n'était pas dans tous les foyers, donc c'est vrai que les Français avaient l'habitude d'aller à toutes les réunions électorales qui se tenaient dans les préaux, sur les places des villages, et effectivement, il y avait une rencontre presque physique entre l'homme politique et le peuple, et cette rencontre physique aujourd'hui est beaucoup plus difficile, parce que finalement on absorbe l'information de chez soi, devant sa télévision ou sur internet, donc finalement cette rencontre entre l'homme providentiel et le peuple est beaucoup plus difficile à organiser. Donc je crois qu'aujourd'hui il serait très difficile d'imaginer qu'un mouvement catégoriel rassemblant uniquement des commerçants ou artisans ou des membres d'une autre profession sans aucune expérience politique puisse réussir former un mouvement politique de l'ampleur du mouvement Poujade.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est la trame que représentaient dans les villages tous ces petits commerces étaient connus. Ils avaient des clients avec qui, bien souvent, ils faisaient crédit. Les gens étaient gentils. C'était l'époque où il y avait le carnet dans les épiceries. Tout le monde marquait. Donc ces gens tenaient quand même le village. Avaient leur clientèle. C'est pas aujourd'hui que les gens ils restent battent pour les grandes surfaces, quoi. Il faut voir quand même les villages de l'époque et il faut voir ce qu'était la France, ce qu'était la France de l'époque. C'est quand même cette France-là n'existe plus de toute façon. Elle est morte.
Et puis c'est vrai que le thème de la bataille contre l'impôt ne mobilise plus énormément. Là, on voit bien hein, on parle de l'ISF, de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy, mais c'est pas vraiment un thème de campagne. Je dirais ce thème de la jacquerie fiscale, il y a eu de nombreuses jacqueries sous l'Ancien Régime, il y en a eu au XXe siècle, notamment avec Poujade, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, la révolte contre l'impôt ne mobilise plus, ce qui est assez surprenant, puisque une des causes de la Révolution française, une des causes, c'est effectivement le mécontentement fiscal. À l'époque, les Français travaillaient en moyenne 3 jours pour l'État, et aujourd'hui, on travaille plus de 183 jours, et les campagnes, comme les villes, sont tout à fait calmes.
C'est ça l'objectif. C'est ça. Plus les gens travaillent pour l'État, moins ils ont envie de se révolter. D'abord, ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est tellement évident.
Abrutis,
quand on arrive
courage,
à fabriquer un pays où il y a des millions de chômeurs, ceux qui ont du travail n'ont qu'une peur, c'est de le perdre. Ceux qui sont mal payés n'ont qu'une peur, c'est d'être encore moins payés parce qu'ils n'auront plus que le...
Non, mais je veux dire, travail pour l'État en termes de paiement d'impôts.
Oui, j'ai bien compris, mais ça fait partie, du lot. Vous comprenez, le gars qui a la chance d'avoir un boulot à l'heure actuelle et un salaire, il se dit, je paye 183 jours par an, je travaille 183 jours par an pour l'État, mais je préfère ça plutôt que de me retrouver 365 jours par an avec l'État qui me donne de quoi m'acheter une paire de biscottes tous les deux jours. Donc, il s'écrase. Il y a, pour ça qu'il y a très peu de grèves, sauf dans la fonction publique. Il n'y a plus de revendications salariales, sauf dans la fonction publique, parce que c'est vrai qu'un gars qui a plus de qui veut être augmenté, qui voit son patron et qui lui dit je gagne pas assez, le patron lui dit bah, écoutez, cher ami, allez donc chercher du travail ailleurs. J'ai 50 personnes devant la porte qui attendent pour bosser.
Mais il y avait aussi une chose qui était très marquante dans la politique de l'époque. Je me souviens, moi, rentrant en Indochine et à deux doigts d'y repartir, parce qu'on a quand même été un paquet, aller en Indochine, revenir presque en perme, puis repartir. On était très actifs, hein, parce qu'il y avait le communisme qui était présent. Et le mouvement Poujade a fait beaucoup d'anticommunisme. Et moi, je me souviens, à une époque dont je peux pas donner la date exactement, mais des manifestations dans la rue avec des bagarres contre les communistes, avec les journaux de Poujade qui ressemblaient étrangement à ceux que le RPF a monté après. C'était le même combat national avec en face un ennemi bien désigné qui était le communisme. Ça n'existe plus non plus. Tout ça est beaucoup moins clair aujourd'hui avec Mme Buffet,
l'ennemi
tous ces braves gens, tous ces gentils mecs ou ces bonnes femmes gentilles à cette époque-là. Les gens savaient à quoi s'en tenir. Et les mecs qui étaient rentrés prisonniers, qui avaient vu arriver les Russes, il ne fallait pas leur en raconter cela.
Ils s'étaient battus à l'Assemblée, les poujadistes et puis les communistes. Je ne sais pas si vous le
rappelez. Tout à fait, oui. Il y avait eu un jour une bagarre où était mêlé Damasio, où il y avait Did, et il y avait eu un coup de feu. C'est-à-dire que vous aviez à la tribune, enfin dans la rangée où sont les spectateurs, tout d'un coup quelqu'un avait tiré un coup de feu, deux coups de feu. C'était un provocateur effectivement qui était rentré à l'Assemblée.
Alors je vais vous dire une bonne nouvelle, vous me donnerez tous vos noms avant que je ne parte. J'ai trouvé le journal de l'époque, grand comme ça, avec un dessin où on voit Did, Le Pen montant, essayant de monter à la tribune, et une bagarre incroyable. Un grand journal comme ça, je vais le faire tirer.
Ah oui, ça fait une belle affiche.
Je vous en donnerai.
Et dessous,
je crois que c'est marqué Le Pen monte à l'assaut de la tribune, et on voit les mecs qui s'en mettent vraiment.
Ils ne se connaissaient pas, il n'y avait pas très longtemps qu'ils étaient élus. Oui. Et alors, à un moment, il y en a un qui saisit, qui avait réussi à monter, qui saisit une urne ou je ne sais quoi, et qui veut le balancer sur un groupe en dessous, et l'autre l'arrête à côté en lui disant « Hey, c'est les nôtres, c'est les nôtres
!» On s'amusait quand même mieux qu'aujourd'hui, non ?
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, vous voyez les crevettes qui montent derrière les unes, derrière les autres.
Les gens s'insultaient allègrement sans que ça prête... Il n'y a pas de problème, le gars il disait ce qu'il avait à dire. Quand on voit, si j'étais interviewé cet après-midi par une journaliste qui me faisait raconter la vie de Le Pen, mais hors politique, c'est vachement facile.
C'est très facile.
Et justement, je lui parlais de tout ça, je lui disais, c'était une autre époque. Quand on voit le cinéma qui avait été fait, quand Madame de Panafieux avait été bousculée un soir, ce qu'ils ont appelé la nuit des longs couteaux, on était à l'Assemblée nationale, une dizaine de gens du Front National, on était toujours 8 ou 10 sur 35, Et on avait la majorité parce que les autres n'étaient pas là. Et on avait simplement signalé le fait que le quorum n'était pas là. Ça a fait un vrai cirque. Et dans la presse, tous les jeunes journaleux n'ont rien trouvé de très drôle dans ce qu'on avait dit ou dans ce qu'on avait fait. Et ça commençait déjà à changer. Les Gaulois étaient déjà en direction du cimetière.
Voilà, c'est un bouquin qu'il faut lire parce que, bon, je crois que vous l'avez compris à travers la conversation que vous avez avec Très Bouclier, c'est un vrai livre d'histoire. C'est-à-dire que c'est un livre qui.
Oui, tout à fait, oui.
C'est un livre qui remet en perspective complètement des années qui sont très proches, puisque moi j'étais petit garçon. C'est quand même pratiquement contemporain, puisqu'on nous fait un devoir de mémoire tous les soirs.
C'est pratiquement contemporain, ça n'a que 50 ans, finalement, à l'échelle de l'humanité, c'est très peu, mais on mesure l'évolution de la France, et finalement, on se dit c'est très proche, mais la France actuelle, finalement, n'a plus rien à voir avec la France de ces années-là.
Alors, les paysages ont changé, la population a changé. Quand on voit les films d'actualité de cette époque-là, qu'on voit les gens dans la rue, les voix ont changé. Les femmes n'ont plus la même voix, les hommes n'ont plus la même façon de parler. Quand vous avez. Alors, c'était les tout débuts de la télévision, et quand on voit des scènes qui ont été tournées dans la rue par les caméras de l'époque, qui étaient des gros machins, et où les gens sont interviewés, on voit la façon de parler, le langage. Ils avaient un vocabulaire de plusieurs dizaines de mots, quand même. Tandis que maintenant, c'est exactement ça. C'est enfin, je veux dire, quelque part, au niveau de mon vécu, je m'interpelle, quoi. Voilà. Vous pouvez interviewer un cycliste, vous pouvez interviewer un marchand de saucisses. Enfin, quelque part, je veux dire, au niveau du vécu, ça m'interpelle pas mal. Et je ne sais pas ce que penseront nos arrière-petits-enfants quand ils regarderont la télé de nos jours.
Deux, trois ans avant tout ça, j'étais à la campagne dans la Mayenne, dans un petit bled qui s'appelait Poulet. Le dimanche, tout le monde était là. Les paysans étaient habillés. Les fermières avaient le chapeau, le sac. Hein. C'était encore l'époque, c'est quand même pas au Moyen-Âge, où les paysans amenaient ce qu'on donne au curé chaque année. C'était en sac de blé. Qui était mis dans la sacristie, et on portait des sacs de blé au boulanger qui disait, bon, ça fait 800 kilos de blé, et ça te donnait tant de kilos de pain que tu... C'est pas la France du Moyen-Âge, c'est la France il y a 50 ans, et cette France, ils l'ont tuée, elle est morte, quoi.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, ma chère Victoria ?
Je ne sais pas.
Ah bon ? Bon.
Je ne sais pas, j'ai lu des messages depuis qui me surprennent, alors bon...
Ben allez-y, surprenez-nous aussi.
Mais je comprends rien. Alors.
Ah bah si vous comprenez pas ça, c'est autre chose là. Victoria me dit, je ne comprends pas, elle me tend le message et je lis, je ne comprends pas Victoria. Bon, on va vous isoler dans une pièce tous les deux, puis vous arrangerez. Un pot, elle aime bien ça.
Oui,
vous savez qu'il y a du...
Bon, j'ai pas dit qu'il fallait pas parler un coup, dire, hein.
Voilà, bon bah écoutez, tant pis, on va demander peut-être à cet auditeur de nous dire ce qu'il comprend.
Oui, ce que je voulais vous lire, c'était qu'en 56, moi j'ai pas osé vous le dire tout à l'heure, mais ça me confirme, ce n'était plus Vincent Auriol, mais René
Coty. Très juste, très juste, très juste.
Oui, moi je me souviens de Vincent Auriol parce que j'avais vu défiler, c'est en 53 alors, sur les Champs-Élysées.
Et puis on nous dit aussi, Pierre Pouchat a eu des contacts avec Pierre Boutan, directeur du journal royaliste de la Nation française dans ces années-là, mais on le rencontrait, Boutan, ils étaient à la même imprimerie que nous, à l'imprimerie de la JEP rue Cadet.
Et puis à cette époque-là, qui n'a pas eu de contact avec Boutan, c'est ça?
Oui, mais nous,
fraternité française, c'était pas mal comme... Fraternité française, ça sonne.
Et on se retrouvait au bistrot qui était juste à côté de l'imprimerie pour manger. Après l'effort.
Vous alliez au bistrot, vous, une jeune fille?
On avait faim.
On en prendra de belles.
Mais pour manger.
On va mettre un terme à cette conversation parce que je sens que ça va tourner très intime. Là. Si vous nous racontez vos beuveries avec Poujane.
Mais Poujane n'était pas là, c'était le journal. Bon.
Et alors, une auditrice confirme, il se dit beaucoup qu'Edgar Faure était le fils de Litvinov. C'est vrai qu'on avait dit ça, hein.
En tous les cas, voilà. Les poujadistes, ils faisaient beaucoup rire Edgar Faure. Hein. Il était dans la salle à chaque fois qu'il y avait une intervention et il avait l'œil qui frisait, qui brillait.
Enfin, il le faisait rire et il le faisait également courir, parce qu'il y a également une anecdote où Poujade était parti porter la contradiction à Edgar Faure. C'était en 1955 et Edgar Faure, voyant arriver Poujade, est parti à travers les champs et Poujade lui courait après en lui disant Edgar reviens, je ne te fais pas de mal.
Je veux seulement te parler. Merci Thierry Bouclier. Alors, merci. Ce livre qui s'intitule Les années Poujade, il est paru aux éditions Rémi Perrin, que je salue parce qu'il est ici, mais il ne peut pas parler puisqu'il n'a pas été inscrit sur le livre de parole, qui est un ami et qui fait du très bon travail d'éditeur. Et vous allez le signer chez Duquesne Life
Agency. Le samedi 3 février. De 14h30 à 17h, Thierry Bouclier dédicacera son livre Les années Poujade à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne.
Vous aurez également sur votre Tixier, sans doute, il n'est pas
épuisé. Oui, tout à fait, non, le Tixier n'est pas épuisé.
C'est un beau portrait aussi d'un personnage, quand même, dont je parlerai pas, parce que je sais que si j'en parle, je vais dire des choses qui me vaudront encore des soucis.
C'est pas la peine.
Donc, je ne parlerai pas de sa confusion entre les patronymes et les adresses. Voilà. Merci
Serge, merci beaucoup.
Merci Rémi Perrin d'avoir publié ce bon livre qui nous fait découvrir, redécouvrir une France qu'on a perdue. Heureusement qu'il reste encore un ou deux témoins, comme Roger ou Victoria. Vous étiez encore un bébé à l'époque, Jean-Pierre.
J'étais assez jeune, oui. J'ai
encore une lueur de concupiscence dans
le
regard de votre père.
Par l'histoire après, mais c'est tout.
Bien. Alors, ben voilà. Oui, ça, cette affiche, j'aimerais bien la voir quand même.
Mais je vous la ferai tirer, mais il faut que. On est tellement pris en ce moment, mais je l'ai dans mon bureau et je vais la faire tirer. Mais c'est grand. Ça doit être Radar, peut-être. C'est peut-être
Radar était là.
Alors, c'est très, 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 très grand. Mais je suis tombé. On m'en a fait cadeau, le gars qui m'a amené, je l'ai embrassé. C'est un document d'époque, vraiment. Hein.
Alors, un auditeur nous dit bonjour, France 2 diffuse ces jours-ci un téléfilm en trois parties, Les Camarades, qui est une apologie des militants communistes et donc de leur combat. Pour en rajouter une louche, le 1er février, on a la rediffusion d'un documentaire lénifiant sur lénifiant, même on pourrait dire sur l'UMA. Les radios et télévisions publiques sont devenues une espèce de ministère de la propagande et de la collaboration qui ne laisse aucun répit. Alors il faut que je regarde la date de ce message parce que, à mon avis, il doit dater des années 60. Parce que
c'est pour donner un coup de main à Madame Buffet, parce qu'ils n'ont pas du tout envie que le Parti communiste disparaisse. Voilà, c'est pas compliqué. Ils l'ont tenu à bout de bras pendant des années. Ils l'ont donné. Il y a eu un deal. Ils avaient les mairies communistes et autres. Ils en ont encore un peu aujourd'hui, mais ça les embête vraiment que le Parti communiste disparaisse. Il ne faut quand même pas se tromper que nous, lorsque nous étions 35 députés du Front National à l'Assemblée, M. Pasqua, le bon M. Pasqua, hein, qui allait terroriser les terroristes, il n'a rien terrorisé du tout, il se baladait avec du fric et il proposait 100 briques anciennes à tout député du Front National qui voulait quitter le groupe, uniquement parce qu'il fallait qu'on descende en dessous de 30. Si on avait été moins de 30, eh bien, on n'avait plus de groupe.
Bon, il a trouvé. Vous n'avez pas pris les 100 briques, moi je les aurais pris, puis j'aurais
trouvé. On peut toujours rire avec ça, mais enfin, on a trouvé qu'un salaud qui a pris la valise, ça ne lui a rien rapporté, il est mort. Mais enfin,
c'est
pas grave, mais quelques années après le Parti communiste, ils étaient 28 ou 29, enfin moins de 30, et tous les partis de droite molle et socialo et autres ont baissé le nombre de députés nécessaires pour avoir un groupe. Parce qu'avoir un groupe, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. C'est d'ailleurs le même problème à l'Europe, où ils ne sont pas heureux qu'on ait réussi, grâce à Gollnisch, à faire un groupe. Ils n'ont pas du tout envie. Par contre, les cocos, ils sont prêts à leur souffler dans les bronches pour pas qu'ils crèvent.
Mais
ils
vont crever. Vous n'êtes pas un peu anticommuniste, monsieur?
Je suis un anticommuniste primaire et secondaire. Viscérale. Mais je tiens à vous rappeler encore ce que je dis chaque jour. Tout anticommuniste que je suis, je ne connaissais rien avant d'avoir lu le livre sur Staline, le tsar, ou enfin un truc comme ça. Je l'ai déjà offert une dizaine à des amis. J'arrête parce que je ne peux pas en offrir à tout le monde. C'est la cour du tsar Staline. C'est un bouquin de 900 pages. Eh bien, quand je le lisais, je revenais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Je suis revenu en arrière de plusieurs pages pour voir si j'avais bien lu ce que j'avais j'avais en tête, si j'avais bien lu, si je ne m'étais pas trompé. Et ensuite, pour achever un peu, j'ai lu le Mao, à peu près le même... bon, alors quand on vient nous parler de M. Pinochet, qui a tué 3000 personnes, chez Mao, c'était 3000 tous les jours, chez Staline, c'était à peu près la même cadence.
C'est pour ça que j'ai une vénération particulière pour le maréchal Staline et le grand timonier, parce que personne au monde n'a tué autant de communistes qu'eux. Donc il faut leur en avoir une reconnaissance éternelle. Et c'est pas parce que on sait pas nos amis qu'il faut pas reconnaître quand ils font les choses bien. il faut reconnaître, faut s'incliner devant l'évidence, c'est tout. Pinochet, bon, pas mal, d'accord. Enfin quoi, 3000 à tout casser. Ouais. Pas sérieux. Staline, là, ça commence à devenir... Mao, là, ça devient formidable. Il faut attendre maintenant le bilan final.
Vous étiez pour Pinochet, je ne suis pas pour Pinochet. J'en ai marre d'entendre des salades. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aussi bien sur Vichy, sur Pétain, sur l'occupation, que sur Pinochet. Bon, moi, je suis nationaliste français. Je vais pas changer. Dans ma famille, on était anti-Boche. Mais j'en ai marre d'entendre les conneries qui sont racontées sur la présence des Allemands en France. L'autre jour, j'étais dans un bistrot...
Non, mais ils sont venus, ils y étaient quand même.
Oui, l'autre jour, j'étais dans un bistrot en Sologne, là, il y avait un tas de gars qui me voient, ben Roger, tiens, viens boire un pot. Bon, des paysans, des ouvriers, tout ça. Bon, mais ils étaient tous résistants pendant la guerre. Bon, alors, hein, tu te souviens d'Antoine, on les a fait courir, ah, t'as vu, Léon, un peu. Enfin, les Boches, ils pouvaient pas aller pisser sans prendre une grenade sur la gueule, qu'ils pouvaient pas sortir. Alors, je leur ai dit, mais enfin, comment ils ont pu rester là pendant 5 ans? C'est vraiment, vous étiez aux pendant 5 ans, comment ils ont pu rester là pendant 5 ans?
Parce qu'ils étaient bêtes.
Bah, vous voulez voir des résistants, des vrais résistants, ben, vous venez au Front National, on en a quelques-uns qui ferment leur gueule. Et les vrais résistants, ils ferment leur gueule. Voilà, c'est ça le problème. Nous sommes totalement victimes d'un dérèglement total de l'histoire. Hein, ils osent nous traiter de révisionnistes, mais eux, ce sont des négationnistes. Parce qu'ils changent totalement des pages entières de l'histoire où ils les suppriment, ils les arrachent. Voilà. Hein, mais c'est pas comme ça, moi je me battrai jusqu'au bout parce que là je commence vraiment à en avoir par-dessus la tête.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très injurieux dans la présentation qui est faite notamment au cinéma de l'occupant allemand, pas contre l'occupant allemand mais contre les Français. Ouais. Parce que quand on voit l'espèce de quantité d'abrutis qu'il y a eu dans notre pays pendant 4 ans, ils sont arrivés à rester 4 ans avec leur casque enfoncé sur les oreilles, leurs grosses bottes et leur nourris de pommes de terre bouillies. On se dit, mais comment les Français ont-ils mis 4 ans à les faire partir avec encore l'aide de l'étranger?
Je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent que dans ma famille, on était anti-allemand. On était foncièrement anti-allemand parce qu'ils occupaient notre pays. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir le courage, bien souvent, de reprendre des choses qui sont racontées et qui sont fausses. Alors on ne vit que sur le mensonge. Moi, j'ai fait l'exode. On a quitté Paris, avec toute la famille. Bon, ben j'ai vu sur les routes, lorsque Pétain a signé l'armistice, les dames de la Croix-Rouge qui distribuaient des cartes postales avec le portrait de Pétain. Ben les gens prenaient pas la carte postale pour cracher dessus, ils prenaient la carte postale, ils l'embrassaient, ils faisaient le signe de croix. Ah, heureusement que le maréchal est là. Alors s'il y a eu des conneries de faites, oui certainement. Quel est le régime? Quel est le pouvoir qui ne fait pas des conneries, mais qu'on restitue aussi cette histoire dans le cadre de l'époque, avec une armée d'occupation, avec 2 millions de prisonniers en Allemagne. Là, on ne pouvait pas, à un moment, on était en guerre contre une famille au Liban, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus le nom de la famille, mais ils détenaient un otage. Alors là, on fermait notre gueule, il n'y avait plus d'armée française, il n'y avait plus d'aviation, il n'y avait plus rien, on était tous à genoux. Mais à l'époque, il y avait 2 millions de prisonniers en Allemagne.
Et puis, il faut ajouter aussi, Roger, quand même, parce que c'est une question de perspective, tout ça. La plupart des Français adultes de l'époque avaient connu la tuerie de 14-18. Et ils n'étaient pas tellement clients pour recommencer. Ils avaient vraiment subi des souffrances abominables. Et on comprend que quand le maréchal a dit, bon, on arrête le truc, ils se sont dit... enfin, au moins on échappe à l'horreur des tranchées, à l'horreur de Verdun qui pourrait recommencer. C'est ça qu'ils avaient dans la tête, ces gens-là.
Tous ces gars, aujourd'hui, ils disent que s'ils avaient été là.
Ah, bah.
Eux, s'ils avaient été là, on aurait vu ce qu'on aurait vu.
C'est ce que je répète.
L'histoire, il faut la raconter. Il faut la raconter telle qu'elle y a été. Dans l'avant-dernier livre que j'ai écrit, je donnais les chiffres des gens qui ont rejoint les Allemands sur le front de l'Est. Des Français qui ont rejoint les Allemands sur le front de l'Est. Alors, blanc pour blanc, dans l'armée gaulliste, il n'y avait pas plus de blancs français dans l'armée gaulliste que de blancs français qui étaient sur le front de l'Est. Donc c'est l'équivalent. Alors est-ce que je ne salue pas les mecs qui se sont battus à Birakem et autres? Mais si, je salue les mecs qui sont à Birakem. Mais qu'on arrête de raconter n'importe quoi, parce que les jeunes, ils n'y connaissent rien, parce qu'on c'est comme cette histoire de les gars qui font le film, les indigènes, là, ils disent, mais on nous a rien dit. Mais merde, mais qui écrit les livres d'histoire? C'est pas Hollande, c'est pas Le Pen, c'est pas toi, c'est les francs-macs qui écrivent les livres d'histoire, alors qu'ils s'adressent aux gens, qui suppriment tout ce qui peut. Et puis en plus, dans l'armée d'Afrique, ben De Gaulle n'en parlait pas trop, parce que c'était une armée qui venait de chez Pétain, qui avait été créée et maintenue et mise en place par le maréchal Weygand. Alors, ben oui, mais que les gens arrêtent quand même leurs conneries, qu'ils réfléchissent un peu. On va pas tous les jours, surtout, leur expliquer. Cette armée n'a pas existé un beau matin, hein, parce que c'était l'armée qui sortait de Vichy. Puis c'est tout. Est-ce que ça enlève quoi que ce soit aux gens qui se sont sauvés, qui ont rejoint la colonne Leclerc? Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à personne. Mais qu'on dise la vérité et qu'on cesse de touiller dans le pu. Hein. L'autre jour, le mec me disait à Le Pen, enfin, vous aviez vu dans votre parti un gars qui avait été dans la LVF. Oui, puis j'avais un gars aussi qui a sauté à Arnhem. Et puis j'avais un gars qui était à Londres. C'est pour ça, c'est nous. Chez nous, ça s'appelle la réconciliation nationale. Bon, ils n'en veulent absolument pas. Il n'y a qu'à voir déjà. On va peut-être parler tout à l'heure de la campagne actuelle.
Oui, mais je voudrais qu'on en parle.
Il n'y a qu'à voir un peu comment ça a démarré.
Il y a quelque chose sur lequel j'insiste toujours. C'est le paradoxe énorme qui fait que les maires qui, trois fois par an, 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, vont devant le monument aux morts et font des discours sur le thème, premièrement, si jamais ils reviennent, vous allez voir la branlée qu'on va leur foutre, parce que cette fois-ci, on va pas se laisser avoir, etc. Deuxièmement, disent, le 14 juillet, c'est la fête de la République. Grâce à la République et à la démocratie, on a sauvé ce pays. On peut maintenant faire ce qu'on veut, on est libre, alors que sous l'Ancien Régime, on n'était pas libre. Et puis là-dessus, tu as le récolteur de signatures du Front National qui se pointe et qui dit « Monsieur le maire, vous voulez pas signer pour que Le Pen puisse présenter sa candidature à la présidentielle ?» Et le maire dit « Ah non, vous comptez, c'est embêtant parce que je vais avoir des ennuis avec mes concitoyens, je vais avoir des ennuis avec mon conseil municipal, puis je risque d'avoir des ennuis avec le préfet. » Alors ces mecs, ils ont pas peur de l'occupation allemande. Évidemment, 60 ans plus tard, c'est moins risqué quand même. Ils ont pas peur des tueurs des armées royales, mais en revanche, le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, alors ça leur fout les jetons.
Oui, mais il faut pas oublier que il y a déjà des gars de Ralfron et des gars du Scalp, section carrément anti-Le Pen, hein, qui croient vraiment à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Ils croient vraiment être la résistance et nous, on serait les nazis, l'occupant nazi. Ces types sont complètement fous. Enfin, qui les a fait ainsi? La presse, la télé, la radio, l'éducation nationale, c'est personne d'autre.
Alors, où on en est de ces signatures? Ça nous finit par nous travailler, ouais. Cette histoire-là.
Il est bien sûr et certain que ça n'est pas facile. Mais lorsque les journalistes disent « Monsieur Le Pen, mais vous avez les signatures, vous faites semblant de ne pas les avoir ». Non, pour l'instant, on ne les a pas. On en a un grand nombre et on a beaucoup de gens sur le terrain. Bon, là, en ce moment, tous les cadres supérieurs s'en vont. Et moi, la semaine prochaine, je vais me taper une région de France en train de me préparer le boulot, pas parce que c'est moi. Le boulot est préparé par tout le monde, des contacts sont pris et on arrive. Mais enfin, c'est pas toujours facile de trouver le maire. C'est lui qui arrive là, il est à la ferme chez les fermiers, ou il est au garage, ou il est là. Bon, mais on travaille très sérieusement, mais il est sûr et certain que c'est une escroquerie. Notre pays n'est pas en démocratie, c'est une escroquerie. Alors, est-ce qu'ils oseront faire en sorte que Le Pen n'ait pas cette signature? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
C'est parfaitement clair que Sarkozy utilise sa fonction de ministre de l'Intérieur et le pouvoir qu'il a sur les préfets pour empêcher les signatures. Ça, c'est il y a eu des.
Oui, mais le fait.
Moi, j'ai des confidences de maire.
Que M. Sarkozy, qui a dit dans un journal, il faudrait que M. Le Pen ait ses signatures.
Oui, mais Devedjian dit le contraire.
Oui, voilà. Oui, oui. Mais Devedjian vient de chez nous. Alors, c'est normal qu'il dise ça.
Oui, mais c'est un loufia de Sarkozy.
Devedjian nous a emmerdés pendant des années. Quand il était au Front National, on n'était jamais assez anti-juif, jamais anti-arabe, on n'était jamais. Et lui, il est devenu libéral, libéraliste et autres. Bon, ce sont des salauds, c'est tout, quoi. Hein? Mais M. Sarkozy lui a dit il faudrait que M. Le Pen ait ses signatures. Bon, mais bien sûr, il est certain que si nous ne les avons pas, je pense que nous allons les avoir. Et là, les militants, et même tous les cadres du mouvement, tout le monde est sur le pont. Il ne faut pas oublier que ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune.
Alors, bon. Je peux dire, en tant qu'ancien maire,
Dominique Tasso, ayant été démarché par évidemment les bons partis à l'époque où je pouvais signer, je dois témoigner qu'effectivement, le fait que les signatures deviennent publiques par la suite est extrêmement dissuasif pour les maires. Pour une raison très simple, c'est que, bien sûr, il y a des impôts municipaux, mais en réalité, les ressources des communes rurales sont majoritairement en provenance de l'État sous forme de la dotation globale de fonctionnement, en provenance des régions, des conseils généraux, et il est évident que c'est très très difficile pour un maire de ne pas de savoir.
Non, mais ça c'est parfait.
C'est un problème
ce majeur. Encore une fois extraordinaire, c'est que les gens qui tiennent ce raisonnement-là, qui disent, comprenez, on peut pas signer parce que ça met en danger les finances municipales. Ils sont prêts à aller faire la guerre aux nazis 60 ans plus tard. Ça met pas en danger les finances municipales. Ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Ces gens-là sont des hypocrites et des lavettes. Voilà.
Oui, mais enfin, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas oublier. Grâce à notre radio, à votre radio, on peut au moins s'exprimer ici et dire ce que l'on a à dire. Mais enfin, en ce moment, il semble qu'il y a c'est pas parce que M. Bayrou dit ça, mais le matin, c'est Mme Ségolène, 5 minutes après, c'est M. Sarkozy, 30 minutes après, c'est Sarkozy, ensuite, c'est Ségolène. On croirait qu'il y a Mme Ségolène a fait ceci, M. Sarkozy a fait cela, Mme Ségolène est aux Antilles, mais enfin, il y en a.
Tu oublies quand même qu'entre-temps, et Bayrou est troisième. Bayrou est 14% des voix, 5-15%, 16%.
Bayrou, ils lui font gagner 6 points en une semaine, alors que les gens sérieux téléphonent. Non, mais ça n'est pas vrai. M. Bayrou n'est pas le troisième homme. Mais les autres fabriquent le troisième homme au même titre qu'ils ont essayé de le faire avec Chevènement la dernière fois. Alors on peut dire qu'on croit ou on croit pas tellement aux sondages. Les sondages bien faits veulent quand même dire quelque chose. La preuve, c'est qu'il les fait.
La vraie question, Roger, c'est que ça va très loin cette histoire des sondages. J'en ai déjà parlé ici, mais les boîtes de sondages, elles ne vivent pas des sondages politiques, elles vivent de sondages commerciaux. C'est-à-dire les dentifrices dents éclatantes font faire un sondage pour savoir si les gens sont prêts à voir leurs dents s'user de 4 cm par an pour qu'elles restent blanches. Alors, selon les réponses, ils fabriquent des dentifrices à la Pierre Ponce ou pas. Et ça, c'est des trucs sérieux, parce qu'il y a des milliards derrière. Les sondages politiques, ils servent en quelque sorte d'image pour les organismes.
Oui,
mais quand on voit ce qui s'est passé en 2002, où tout le monde était d'accord sur le fait que Jospin serait opposé à Chirac, et qu'on s'est retrouvé avec Jospin dans la luserne et Le Pen opposé à Chirac, et Le Pen faisait deux fois le nombre de voix qui avait été annoncé par tous les sondeurs. C'est quand même extraordinaire. Ces sondeurs, ils ont montré qu'ils étaient des incapables ou des menteurs. Et ils ont montré ça au risque de perdre leur clientèle privée. Parce que moi, si je suis marchand de dentifrice, je vais pas voir le type qui a dit que Le Pen serait pas deuxième ou qu'il aurait la moitié des voix qu'il a eues. Je dis, ce type est un incapable.
Le problème pour moi, qui suis premier vice-président du Front National aujourd'hui, ce n'est pas qu'on risque de ne pas avoir les signatures. Je crois qu'on va les avoir. Je ne vous donnerai pas le chiffre où nous sommes aujourd'hui, mais je crois qu'on va les avoir. Quand on dit qu'il faut 500 signatures, ça n'est pas vrai. Pour être tranquille, il en faut 600 minimum. Mais ce qui me désole, c'est que on peut quand même faire de la politique en étant correct, en étant honnête. Nous, la politique que nous faisons, c'est pour défendre notre pays, c'est pas pour défendre autre chose. Alors quand on voit les gens de BVA là, qui font un sondage auprès des jeunes de 15 à 25 ans, descendrez-vous dans la rue si M. Le Pen est au deuxième tour? Enfin, dans un pays normal, pas dans une république bananière, mais dans un pays normal, ces gens devraient avoir des comptes à rendre à la justice.
Ouais. Je voulais en parler aujourd'hui. Ouais. Il y a ce communiqué de Jean-Marie Le Pen. Oui. Aujourd'hui, ils interrogent des mineurs pour savoir s'ils vont aller manifester éventuellement, oui. Etc.
Mais comme c'est les mineurs,
Le Pen déclare donc l'officine de sondage BVA porte doublement atteinte à la démocratie en demandant à des mineurs s'il faut empêcher Jean-Marie Le Pen d'être candidat et s'ils sont prêts à manifester dans la rue si Jean-Marie Le Pen parvient au second tour de la présidentielle. Ça s'appelle pas créer la guerre civile, ça. Mais lorsqu'on voit tous ces messieurs, pourquoi font-ils ça? Parce que des gens qui ont du fric tiennent les télés et tiennent les radios. Et s'ils ne mettent pas leur petite crotte, eh bien, ils ne sont plus rien et ils sont obligés d'aller au charbon chez Renault ou ailleurs. Alors on assiste quand même à ce truc assez incroyable et même proprement dégueulasse, hein, de monsieur, c'était samedi 6 janvier 2007. Vers 19h sur Canal+, en clair, dans l'émission Salut les terriens, Thierry Ardisson a demandé à ses invités, qu'est-ce qui vous a le plus peiné l'année dernière? Est-ce le décès de Milosevic, de Saddam Hussein ou de Marie-France Tirebois?
Réjoui, pas peiné, qu'est-ce qui vous a le plus réjoui?
Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui? Voilà. Qu'est-ce que Marie-France Tirebois vient faire dans cette affaire?
C'était quel jour?
C'était 6 janvier. Le 6 janvier 2007.
Il n'y avait pas de neige pourtant ce jour-là.
Le 6 janvier 2007.
Dehors, il n'y en avait pas. Dans le
Mais
studio,
comment,
il devait y en avoir un petit peu.
Comment ces gens peuvent-ils se permettre ce genre de choses? Alors moi, qui suis journaliste professionnel, j'ai quand même assisté à tout ça pendant des années. L'affaire Bokassa, par exemple. Je suis à Bangui. Je suis témoin. Je suis le seul journaliste de classe internationale présent sur place. Il n'y a personne au Cameroun, il n'y a personne dans les bleds environnants. Je suis le seul là. Et je suis l'actualité. Je faxe à mon journal ce que je vois. Et j'envoie un papier à Paris Match disant je suis effaré par ce que j'entends à la radio. Tout ça est totalement bidon. Qui peut en parler mieux que moi? Je suis sur place. Je suis l'envoyé spécial du journal. Eh bien, lorsque je rentre, mon papier est passé. Ils n'ont pas changé une virgule. Parce qu'ils osaient peut-être pas. Ouais. Non, mais ils osaient peut-être pas. Il y a un gars dans une rédaction un jour qui avait changé une phrase. J'ai retourné le bureau sur la gueule et j'ai sauté à pieds joints sur le bureau. J'ai pas eu ma pige, mais au moins, je n'ai pas accepté qu'on caviarde comme ça. Eh bien, Paris Match, pour qui j'avais du respect à l'époque, parce que c'était quand même un journal qui m'a permis de vivre une grande aventure, ils avaient fait une page et demie avec mon récit de moi qui était sur place et une page et demie d'un gars de chez eux, gauchiste, qu'ils avaient envoyé à Londres voir les dirigeants d'Amnesty International qui, eux, étaient à Londres et qui ont raconté le contraire de ce que j'avais dit.
Ça, ils n'étaient pas influencés.
Oui. Et fourni les photos des frigos chez Bokassa qui étaient les frigos de la morgue. Et moi, je dis, mais ce sont les frigos de la morgue. Eh bien non, ça a apparu. Donc, quand ils lancent quelque chose, il est quand même incontestable que tout est calmos. Et puis un bon matin, pam, 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 ça démarre. Toutes les radios, le même texte. Tous les journaux, le même texte. Ils en arrivent même presque à faire les mêmes couvertures. Et les Français disent, mais tout ça, c'est la faute à pas de sens, tout ça, c'est l'opération du Saint-Esprit.
Il y a une, tu sais, il y a la fameuse affiche vue à la télé.
Oui.
Pour vendre une, c'est quand même extraordinaire, pour vendre une machine à laver.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle est l'argument? Elle consomme pas, elle lave bien, elle coûte pas très cher, elle consomme pas beaucoup. Non, non, tout ça, c'est des conneries. On met la photo de la machine à laver vue à la télé. Putain, je vais acheter une machine à laver qui a été vue à la télé. C'est extraordinaire. Quelle, je suis sûr que ça va être formidable, une machine. Mais celle qu'on a pas vu à la télé, ça vaut rien. Mais
alors là,
là c'est pareil.
Là, en ce moment, dans la campagne, bon, ben, nous, on se bat. Hein, Le Pen se bat. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut quand même voir les kilomètres que se tape ce type, le nombre de réunions et tout. Il faut quand même le faire. Bon, la fille va à la manœuvre. Gollnisch va à la manœuvre. Je vais à la manœuvre. On y va. On ne baisse pas le pavillon. Mais on ne joue pas sur un... On joue sur un terrain miné, quoi. On joue sur un terrain miné, parce que la mère Ségolène, normalement, hein, si c'était Le Pen qui, en Chine, d'abord elle se pointe en blanc. Bon, en Chine, le blanc, c'est la couleur du deuil. Mais c'est pas une fantaisie comme ça, c'est la couleur du deuil. Au même titre que le rouge, ce qui a bien servi les communistes, le rouge, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la gaieté. Elle se pointe en blanc. Elle a de bons conseillers. Ensuite, elle va dire, ben, on devrait prendre quand même un peu à l'étranger des exemples. Par exemple, en Chine, on m'a dit que la justice était plus rapide, qu'en France. Mais oui, en Chine, ils exécutent les types d'après les commandes d'organes qu'ils ont.
C'est ça,
voilà, c'est pas compliqué. Il arrive une commande d'organes, il y a 200 ou 300 mecs qui attendent d'être flingués, ils tuent le mec en lui tirant une balle dans la tête, la cartouche est payée par la famille qui reçoit la facture, et ensuite on enlève sur ce gars qui a été ausculté et tout vu avant, les organes qui sont mis sur le marché international. Voilà l'exemple que cette bonne femme donne. Si c'était Le Pen qui avait dit ça, mais sa carrière politique était finie et sa campagne électorale était terminée. Bon, ensuite, elle dit, mais il faudrait que pas quand même être égoïste. Il faudrait que les patrons français donnent un peu de leur technologie aux Chinois. Mais enfin, ils nous prennent pour des cons, quoi.
C'est exactement
hein?
ça.
Oui. Ils nous prennent pour... Mais vraiment, ils prennent les Français pour des abrutis. On va bosser de moins en moins, les autres, ils bossent de plus en plus. Ils n'ont pas de pognon. Il arrive du pognon de toute la planète. Parce que tout ça, c'est totalement artificiel. Ça peut se terminer pire que les emprunts russes. Tout ça, un jour peut se casser.
Mais ça va arriver, Dieu merci.
Peut se casser la gueule. Hein.
Le Corse, Olindre, qu'est-ce qu'il pense de l'indépendance de la Corse accordée par Ségolène avant le deuxième tour?
Elle s'est fait piéger. Je suis pas tellement d'accord pour les gars qui piègent les gens.
C'est le seul moyen de leur faire dire la vérité.
Oui. Mais elle n'était pas obligée de dire ça. Mais lorsqu'elle débarque en Guadeloupe, Martinique, c'est le refrain éternel anti-français, hein, l'esclavage, la colonisation, les blancs. Mais enfin, pourquoi toujours accuser la France? Cette bonne femme n'est même pas mariée. Elle a 3 gosses. Elle veut être présidente de la République française. C'est normal qu'une bonne femme pas mariée avec 3 gosses soit présidente de la République française. Bon, elle insulte l'Église de France. C'est normal. Les Français trouvent tout ça normal. Eh bien, moi, je me bats en ce moment et je monte au créneau assez souvent pour dire je me fous pas mal qu'un mec s'appelle Dupont ou Durand. Moi, si je trouve chez Brahim un mec qui veut défendre la France à mes côtés, comme ça a été depuis des années, eh ben, j'irai vers Brahim. Et moi, je crois que la meilleure façon de planter tous ces salauds hein, de gauche, c'est de faire en sorte qu'ils ont fait inscrire les gens sur les listes électorales pour qu'ils votent pour nous et pour qu'ils votent contre nous. Eh ben, si on se démerde bien, il y en a beaucoup qui pourront voter pour nous. Parce que moi, j'ai le regret de le dire, et même souvent, je m'engueule avec des gens du Front National. Moi, je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas raciste. Moi, j'aime pas les ordures, j'aime pas les cons, j'aime pas les salauds, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts. C'est clair, net et précis. Dans mon coin, je fais 25 à 30% de voix dans des quartiers où il n'y a plus un Gaulois depuis 20 ans. Ça prouve quoi? Ça prouve que parmi ces gens, ceux qui bossent ont envie de s'intégrer. Quand on colle la nuit, bon, on est emmerdé jusqu'à 1h, 2h du matin, tant que les soulards, les voyous et les rappeurs sont pas partis se coucher. Mais à partir de 4 ou 5 heures du matin, on est en train de coller, il y a les gars qui sortent parler, bosser. Bonjour monsieur. Voilà, il n'y a jamais de problème. Alors, je dis aussi à mes amis, nous sommes nationalistes. Bon, eh bien, il faut quand même voir les choses clairement. La France, elle est dans l'état où elle est. Ce n'est pas nous qui l'avons mis dans cet état. Si nous avions eu le Manche, tout ça ne serait pas rentré. Mais ils sont là, voilà. Moi, jamais, jamais, je ne monterai sur une tribune pour avaliser le discours de quelqu'un qui dira « on va tous les virer ». On ne les virera pas tous. Bon, alors c'est foutu, alors un lindre, il ne veut plus virer personne. Oui, on va rétablir les frontières, on va vider les prisons, on va foutre les voyous à la porte, on va prendre tout ce qu'il faut pour interdire la double nationalité. Enfin, on va gérer ce pays. Mais il y a un tas de gens qui seront là. Mais c'est à nous, nationalistes, de leur montrer que nous aimons la France, que nous sommes chrétiens, que nous aimons notre Église, que nous aimons notre pape. J'en ai marre de tous ces chrétiens qui passent à la télé et à la radio. Moi, je suis chrétien pratiquant, mais le pape, je l'emmerde, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas un musulman qui dit « moi, j'emmerde le Coran et j'en ai rien à foutre de ce que dit l'imam machin ». Bon, alors, plutôt que de dire ceci ou cela, ou on va descendre dans la rue avec la Thompson, ou on va tous le virer, non. Là, c'est la mobilisation générale. C'est la grande mobilisation. Je crois que c'est le dernier coup. Après ça, c'est foutu. Voilà. C'est là qu'il faut qu'on avance. C'est là qu'il faut qu'on marque, qu'on mette un pion. Alors les gars qui me disent, moi je suis d'accord avec Le Pen, mais seulement il y a un truc qui ne me plaît pas. Je dis, alors t'es d'accord à 99%. Moi je suis d'accord avec Le Pen, mais il y a deux trucs qui ne me plaisent pas. Alors t'es d'accord avec 98%. Alors qu'est-ce que tu cherches? Un mec avec qui tu seras d'accord à 100%, en tant que Gaulois, tu seras jamais d'accord avec personne à 100%. Alors là, t'en as un qui est pas si mauvais que ça. C'est même le bon. Alors il faut y aller. Il reste 2 mois pour se battre et 2 mois pour gagner.
Merci Roger. Ben voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? On peut dire merci. Hein, le souffle, quand même, c'est... Et ben voilà. Merci bien. J'en reste... À chaque fois, il me fait le coup. Il est quand même trop fort, celui-là. Heureusement que t'as pas d'ambition, parce que autrement, Le Pen, il aurait intérêt à raser les murs. Bien, eh bien, on va suspendre cette émission pour quelques minutes et passer à la deuxième partie. Pourquoi me regarder comme ça? Vous voulez
dire des messages? Je me demande si vous allez dire au revoir ou non. Si
non, non, ah non, c'est pas au revoir, j'aurai jusqu'au bout, moi. Eh ben moi s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
À tous les auditeurs et à la prochaine fois.
À très bientôt, Roger, merci.
Et battez-vous et soyez de bons Français et de bons chrétiens.
Eh bien, nous allons engager la deuxième partie de notre émission et j'attends pour ça, on va faire une petite halte bucolique. On va parler d'un château sur une qui s'appelle le château de la Butte. Si monsieur, vous voulez bien amener monsieur Bardin dans nos murs, je sais que ça va le changer puisqu'il habite dans un château toute l'année et de se retrouver dans le studio de Radio Courtoisie, évidemment, c'est pas tout à fait le genre, mais peut-être qu'il acceptera quand même de faire son entrée. Je sais qu'il attend, il a fait le plus dur, il attend dans le bureau des bénévoles. Et là, c'est carrément, c'est l'antre. Ah, oui, c'est ça. Ah, voilà, monsieur Bernard. Vous avez vraiment la mine de quelqu'un qui vit à la campagne et qui fait son jardin toute la journée. Bonsoir, monsieur.
Bronzé, bonsoir, mesdames. Bonsoir,
alors, monsieur. Je vous présente pas tout le monde, enfin, on est entre amis. Et vous êtes, sauf erreur de ma part, monsieur Jean-Marie Bardin.
C'est exact.
Et vous vous attendiez à être reçu par Cécilia. Je suis obligé de vous dire que Cécilia, c'est pas moi.
Je m'en doute.
Bon, bien. C'est pas non plus Cécilia.
Je viens de lui téléphoner.
Ah bon, donc vous savez que c'est pas Cécilia Sarkozy aussi.
Non.
C'est bien, vous savez pas d'ambiguïté. Alors, Cécilia vous a invité parce que elle a été éblouie par votre, littéralement éblouie, on peut dire le mot, par votre château qu'elle a vu au sommet d'une butte à Husseau.
Exact, oui, c'est un petit
et
château.
Elle a trouvé ça merveilleux, elle est allée vous voir et elle m'a dit, j'ai invité M. Bardin parce qu'il fait des choses magnifiques. Alors, je voudrais que vous nous racontiez d'abord comment vous avez découvert ce château, comment vous est venue l'idée... extravagante d'acheter un château aujourd'hui, pas pour le prix, mais parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et ensuite, ce que vous en avez déjà fait et ce que vous allez en faire dans l'avenir.
Écoutez, elle m'avait parlé des jardins, et je peux vous parler du château, bien sûr.
Oui, d'abord, parlez-nous du château. Vous avez une tradition de château dans la famille
Pas du tout, non, c'est peut-être, ça remonte peut-être très loin. Vous savez, quand on est enfant, on va dans les châteaux forts en Alsace, et après on en garde un souvenir impérissable, et ça mûrit dans le fond de votre cerveau jusqu'au jour où il y a une occasion, notamment avec mon épouse qui était prête à se lancer dans l'aventure, et qui a pu, à ce moment-là, se dégager de ses obligations dans la fonction publique, une petite retraite, et vraiment, tous les deux motivés par les mêmes aspirations, nous avons cherché, il faut dire, pendant 2 ans pour trouver un château. Elle espérait quelque chose de plus décoré intérieurement, boiserie, etc., 18e, et puis on a finalement acheté le château qu'on avait vu 2 ans auparavant, qui est un château un peu austère, chastel et forteresse, comme on l'appelait à l'époque, au 15e siècle, donc un château qui est très typé, médiéval, qui a conservé son allure altière, tout à fait médiévale.
Mais... Alors, si vous voulez mettre le casque qui est à votre droite, là, c'est pas, on ne va pas être attaqué, c'est tout simplement pour entendre Cécilia, je veux dire, qui nous appelle de sa province coupée du reste du monde par une grève de train. Bonsoir, Cécilia.
Bonsoir. Alors, première chose, ce n'est pas une grève, c'est un train qui a été supprimé.
Encore mieux.
Ce qui fait qu'on ne peut plus quitter Paris maintenant à partir de 20h. Pour allier Poitiers, Châtellerault, Vendôme et compagnie. Voilà, c'est tout. Il faut attendre 6h du matin.
Orléans, Beaugency, Notre-Dame-de-Cléry, tout ça, c'est fini.
Comme j'ai pas eu l'intelligence de m'en aviser 3 jours avant, et j'ai pas pu m'organiser, j'en présente toutes mes excuses à Monsieur Bardin. Mais vous allez le recevoir très bien, j'en suis sûre. Je viens de l'entendre déjà, et il est tellement plein de son sujet que ça ira très bien. Et je voulais surtout présenter mes vœux aux auditeurs, à tous les gens qui sont dans le studio, mais surtout aux auditeurs, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, et alors, vous souhaitez une année, pleine d'imprévus, disons.
Parce que là, vous êtes à peu près sûr. Vous êtes à peu près sûr d'enlever le morceau avec une année pleine d'imprévus, on peut pas dire mieux,
Voilà. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est le 28 février. Et là, je m'arrangerai pour être là, je le jure.
Bon, très bien.
Voilà, alors je vous...
Mais le château, vous en aviez déjà parlé, je crois que vous aviez fait venir un jeune homme qui s'appelle Jean Séric.
Voilà, un jeune chevalier.
Un jeune chevalier qui avait visité le château, qui avait été assez impressionné.
Exactement, il avait longtemps parlé du sujet plus précis qui nous intéresse dans cette chronique, des jardins.
Des jardins
médiévaux et du potager.
Voilà, et ben, on va en parler avec M. Bardin tout de suite. Merci Cécilia, alors, nous vous embrassons.
Toutes mes excuses à M. Bardin.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Voilà, c'est gentil, elle voulait juste nous faire un petit bonjour de sa province éloignée et plus que sympathique. Belle province. Donc ce château, vous en tombez amoureux, mais ça prend longtemps, ça prend 2 ans.
Ce qui nous plaisait, et si vous voulez, on a été enthousiaste parce que le château a été, on peut dire d'un côté, malheureusement transformé intérieurement. Il a gardé quelques très beaux éléments extérieurs. Intérieurement, il y a, mis à part la tour, il a été vidé, et pour le rendre plus confortable, parce que un château médiéval, c'est très 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 inconfortable. Alors à ce moment-là, si vous voulez, tout de suite on s'est lancé, on avait une idée pour le faire vivre, ce château, pour le refaire vivre. C'est pas nous qui l'avons réhabilité en quelque sorte, puisque quelqu'un était passé avant nous, quelques années avant nous, il n'avait pas été occupé depuis 1904, où une congrégation s'était fait expulser de France et avait perdu par la vente par adjudication 1913. Donc une période de 90 ans, ce château est resté absolument inoccupé. Ça veut dire qu'en 94, il n'y avait encore ni eau, ni électricité, il n'y avait rien du tout, c'était un entrepôt de grains. Donc il avait gardé encore tout son mystère et toute sa beauté. Et nous sommes arrivés et nous sommes lancés. D'ailleurs, nous le savions, nous l'avions prévu avant d'y aller. C'était le but pour le faire vivre, de faire chambre d'hôte. Et pendant presque un an, nous sommes attachés, surtout moi et mon épouse, à décorer, à arranger, quoiqu'il était déjà tout à fait habitable, décoré pour le rendre encore plus attrayant, pour pouvoir exercer cette activité.
Alors, j'ai vu des photos. D'abord, il suffit d'aller sur Internet. Le site s'appelle...
Alors, c'est Château de la Motte.
Château de la Motte.
Si vous voulez, c'est château-de-la-motte.net.
Et les chambres sont extraordinaires. Parce que
c'est gentil.
Ah si, elles sont belles comme tout. Le décor est très... Enfin, de la même époque que le château. Le décor de chaque chambre est c'est ravissant. Pas ravissant, c'est pas le mot d'ailleurs. C'est élégant.
D'accord. Oui, je crois que mon épouse a bon goût. C'est le talent de mon épouse. Et puis, il faut dire, on a eu du plaisir à faire ça. Moi, je continue à travailler dans la région lilloise.
Les meubles sont des meubles...
C'est des meubles de famille.
De famille, oui.
Mais en même temps, si vous voulez, tout ce qui est ciel de lit, c'est pas très ancien.
Les tentures.
Les baldaquins. Et oui, beaucoup de textiles, parce qu'un château comme ça, il n'y a aucun papier peint. Ce sont les murs qui sont en général passés à la chaux, avec soit blanc, soit des jolies couleurs. Et il faut redonner un petit peu plus de chaleur, sinon c'est la froide de la pierre.
Ouais. Alors en tout cas, il faut voir les photos, elles sont très belles, on ne peut pas les montrer à la radio, c'est un vieux gag. Mais ce qu'on ne peut pas non plus montrer à la radio, mais ce que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est l'autre aspect. Parce que bon, vous avez fait de ce château donc un ensemble de chambres d'hôtes, il y en a combien? 4 ?
5,
c'est ça. Et vous avez créé un jardin potager où vous cultivez des plantes potagères, ça c'est pas une surprise, mais qui entrent dans les menus qui sont proposés aux...
Exact, de plus en plus.
À vos hôtes.
Alors c'est toute une aventure, si vous voulez, qui a commencé lorsque nous sommes rentrés au château. Nous avons la chance de pouvoir faire un partenariat avec un lycée agricole, qui nous a très bien soutenus et qui a fait un plan. C'est-à-dire, ils ont pris toute la surface. Je compare un peu le château à un joyau, un petit joyau, si vous voulez, qui n'a pas d'écrin ou qui n'a pas de monture. Donc tout autour, le propriétaire précédent qui avait fait ça pour s'occuper, rénover le château, à ce moment-là, avait une maladie de peau, je crois, il ne mettait pas le nez dehors. Il fallait toujours son bob pour sortir, il sortait le moins possible. Il envoyait ses enfants avec la tondeuse pour tondre, il y avait des espaces de gazon. Alors, il y a eu tout un plan qui a été fait, et par étapes, un petit peu chaque année, et deux fois par an, trois fois par an, il y avait une équipe de jeunes étudiants, si vous voulez, du lycée agricole, qui venaient sous un très bon encadrement, nettoyer, arranger, planter quelques arbres, un petit bois, planter des petits fruits, faire quelques massifs. Mais ils avaient fait tout à fait au départ le concept, un double concept, si vous voulez, d'un jardin médiéval, d'inspiration médiévale, qu'on appelle Hortus Conclusus, dans un jardin clos. Et c'est toujours la même histoire, on cherche un petit coin de paradis où les oiseaux gazouillent, il y a des plantes.
Le jardin de curé, en fait.
Oui, jardin de curé, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'espèces qu'on peut mettre sous le titre de jardin de curé, c'est l'appellation. Mais si vous voulez, où vous avez une sorte de cloître ou deux cloîtres imbriqués, des charmilles à l'extérieur, des ifs plus à l'intérieur, et une fontaine au centre qui permet d'exercer tous ses sens, si vous voulez, les magnifiques arômes, les magnifiques senteurs ou fragrances des différentes plantes, la vue qui est très esthétique. C'est un plan géométrique classique, si vous voulez, qui nous permet de, si vous voulez, de jouir de ce petit jardinet que vous nous avons fait seulement l'année dernière. Vraiment, je dirais l'hiver dernier, nous avons commencé au début de l'hiver, et ça fait un ensemble qui est très agréable.
Alors ça, j'ai cru comprendre que dans ce jardin médiéval, il y avait même des espèces ou des essences qui permettaient de fabriquer du bouillon de 11 heures, parce que j'ai entendu. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça, parce que quand on a beaucoup d'amis, on a envie de les régaler. Alors, 11 heures.
Voilà, c'est oui, c'est vrai.
Mais c'est pas avec ça que vous nourrissez.
Oui, c'est ce qu'ils appelaient peut-être des porées. C'est assez léger.
Voilà,
quand
ils étaient. Il en faut pendant longtemps.
Ils étaient riches, les seigneurs à un bout de lard qui trempaient de façon répétée tous les soirs dans la même porée. Voilà. Des herbes fraîches. Ils appelaient ça des herbes fraîches. Mmh. Et puis il y a un deuxième jardin, alors qui est beaucoup plus important, qui est également géométrique, qui est fait de 32 carrés. Le premier est fait de 16 petits carrés, celui-là fait de 32 grands carrés. Encore une fois, assez géométrique. Il va falloir qu'on atteigne la troisième dimension, parce qu'un jardin, quand c'est débuté, si vous voulez, c'est horizontal. Hein. Mm-hmm. Après, il faut mettre des espèces qui donnent un petit peu, qui cassent un petit peu cette structure géométrique. Alors là, c'est consacré essentiellement aux plantes vivrières. Et je dis bien vivrières, et non pas des plantes uniquement qui se mangent. Plantes vivrières, vous incluez des plantes qui sont des plantes également, par exemple, pour le textile. Des plantes pour la tinctoriale aussi. J'en suis pas encore là. Pour l'instant, c'était essentiellement des potagers.
Pour les faire des cordages, par exemple, dans un château.
Pour faire des cordages, oui, chanvre, c'est utile. C'est une très bonne idée, les cordages. Le chanvre, si vous voulez, oui, bien sûr, le chanvre pour, c'est surtout pour faire des cordages, mais vous pouvez mettre du lin aussi pour faire un peu de textile, tisser.
Le lin, il faut le rouir, c'est comme ça?
Le chanvre, le lin aussi, le chanvre, j'ai retrouvé.
Le chanvre, on peut le fumer aussi.
Oui, vous pouvez le fumer, c'est pas
non,
exactement
c'est
le même.
Pas terrible.
Je pense que si, même si je plante du chanvre, arbre, j'aurai des contrôles. Comme on a facilement des contrôles, parce que c'est des tas de choses qu'on n'a plus le droit de planter, si vous voulez. Ah,
bien sûr, ça, j'espère que Cécilia aura un jour les gens de Cocopelli qui viendront nous expliquer cette espèce de délire.
J'espère qu'ils vont s'en tirer, les malheureux.
Bah, j'espère bien, oui.
Parce que ils ont...
Un délire capitalo-mafieux qui fait qu'on leur interdit de planter des plantes qui ne sont pas inscrites, au catalogue.
Ah, c'est ça, ils sont en procès, hein. Ils sont en procès avec
un de mes fournisseurs. Ils sont très sévèrement condamnés. J'espère que ça va.
Ils sont partis en appel. Hein, je crois qu'ils ont tout espoir.
Mais je pense qu'ils viendront nous voir parce que c'est quand même des gens.
Oui, mais ce serait peut-être bien de les soutenir un petit peu.
Ils méritent d'être soutenus.
C'est financier. Hein, il faut inscrire une plante. Il faut environ, je crois, c'est dans les 500 euros. Alors comme ils ont 2000 sur leur catalogue, vous imaginez la somme que ça représente.
Bon, moi, il ne faut pas qu'ils viennent à la maison, parce que là, on a des plantes qui sont...
Sur le balcon.
Sur le balcon, des trucs terribles, que je ne sais même pas ce que c'est. Alors.
Bon, vous savez, hein, il y a des plantes qui sont absolument passionnantes. On ne fait pas que des plantes du Moyen-Âge, bien sûr.
Alors, vous nous dites des plantes vivrières, des plantes potagères, des plantes...
Oui, bien sûr. Tout ce qui est simple aussi, toutes les plantes médicinales, c'est une véritable collection.
Tinctorial, c'est-à-dire pour faire des teintures.
Oui, la gaude ou le pastel, si vous voulez, pour faire des teintures. Mais il y a des choses plus simples. Et la gaude et le pastel, bon, ça fait la richesse du...
Le pastel, c'est bleu, la gaude, qu'est-ce que c'est?
Voilà, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est deux noms différents. Le pays de Cocagne, si vous voulez, qui a été tout un essor extraordinaire dans le sud, du côté du Languedoc, je pense.
Oui, absolument. Quand on va là-bas, on peut visiter... Il y a beaucoup de musées qui parlent de ça, parce que maintenant, c'est devenu un objet de muséographie, c'est plus un musée, c'est plus la réalité, on cultive de moins en moins.
Non, c'est plus rentable, si vous voulez. Mais c'est amusant parce que les gens sont à l'affût non seulement de légumes oubliés, c'est tout à fait à la mode, mais également de légumes qu'on a, ou de plantes, ça peut être des petits fruits qu'on a mis de côté, qui ont été l'objet d'études scientifiques, et puis qui maintenant peuvent à peu près s'adapter au climat, surtout avec le réchauffement de l'atmosphère. Là, ça fait plutôt aider pour ça, sauf qu'il y a des problèmes terribles d'eau et de sécheresse. Et les gens sont très friands de ces choses-là. Alors, non seulement les gens qui vont visiter jardins, qui ont déjà visité, mais également les autres, comme vous avez parlé tout à l'heure.
Et comment est l'environnement du château, des jardins? Est-ce que vous êtes en pleine campagne?
On est en pleine campagne, tout près du village. On est à 200 mètres du village, si vous voulez, sur une butte qui domine le village, sur une ancienne motte féodale. Et ce château a une caractéristique qui est assez rare, c'est que lorsqu'il a été reconstruit, parce que c'est probablement un château, soit un château en bois qui date du Xe siècle, IXe siècle, mais après il y a eu un château fort probablement au XIIe siècle qui a été construit sur une motte. Entre le XIIe et le mi-XIIIe siècle, tous les châteaux étaient construits sur les mottes. C'était la technique, c'était systématique. Le seigneur construisait un donjon, si vous voulez, donjon, c'est dimanche, domino, donjon, tout ça, c'est la même étymologie, pour dominer, c'était psychologique autant que guerrier. Et ensuite, ce château a probablement pris feu, c'est intéressant de faire des fouilles, et le fils du propriétaire qui avait acheté peu de temps avant était assez aisé, il s'est fait, virer par Louis XI, quand Louis XI est arrivé en juillet 1461, et à ce moment-là, je me demande si c'est pas la prime de licenciement qu'il a réclamé à Louis XI, qu'il a obtenu. Il l'a réclamé en septembre et il l'a obtenu en décembre. 2500, 2800 livres tournois.
L'administration actuelle pourrait prendre des cours. Là.
Voilà. Et je me demande si c'est pas ça qu'il a incité. Il a voulu garder ce petit château. Et comme il avait brûlé, il l'a reconstruit. Il l'a construit un petit peu plus grand, un petit peu plus altier, un petit peu plus impressionnant. Et il l'a reconstruit, puisque ça ne se faisait plus à cette époque-là, à côté de la motte. Et il a dû récupérer les matériaux et dégager toute la motte féodale. Ce qui fait aujourd'hui un jardin suspendu unique, si vous voulez, vous vous trouvez 10 mètres au-dessus des douves. Enfin, des douves, elles ont été comblées depuis. C'était pour moi 15 mètres au-dessus des douves. Et c'est peut-être quelque chose d'unique, quasi unique en France. Si, bien sûr.
Ah, vous rassurez, parce que
je vous voyais parler
de ça sur un ton tellement sérieux que je me disais, mais il va quand même pas nous dire qu'il n'y a pas de fantômes. Si, il y a des fantômes.
Si, je vous raconterai pas dans le détail à la radio. Oui, parce
moi,
que un malheureux qui était au château pas très légalement, c'est-à-dire qui venait s'occuper un peu des soirées un peu longuettes de la châtelaine en 1432. Et le Seigneur était terrible. Vous savez, 1432-1431, Jeanne d'Arc, malheureusement, sur le bûcher à Rouen. C'était une période de guerre. Ce Seigneur-là avait d'ailleurs kidnappé une jeune riche héritière, la dame des Halles de Poitiers. Et il a fait des coups de main, il était pipillé, il ne rentrait pas souvent dans ce château. Et un jour, si vous voulez, un entremetteur du petit village, qui est juste à côté, Maître Guérin, est venu, pour une raison de réparer les toits, je ne sais pas s'il était charpentier ou quoi, et il a amené dans son équipe un jeune et beau garçon qui s'appelait Baudard, qui s'est un peu attardé au château, et vous imaginez la suite. Et lorsque le Seigneur est rentré, peut-être un ou deux ans plus tard, voilà, c'est ça. Et le Seigneur, en rentrant, a envoyé ses gens, comme on appelait à l'époque, poursuivre l'entremetteur, Maître Guérin, qui a été passé au fil d'une épée, et lui-même a dû se charger de Baudard, dont le corps a été précipité, probablement mort, au fond d'un vieux puits au pied du château, en 1432.
Depuis, il essaie de
sortir. Alors, de temps en temps, il vient se manifester, comme quoi il a été vraiment plus que maltraité.
Mais les dames ne s'en plaignent pas.
Alors, les dames ne s'en plaignent pas. Il y a quelques autres qui se réveillent à 3h du matin. Et qui...
Il vaut mieux boire de l'eau en bouteille chez vous.
C'était un vieux puits désaffecté.
Ah bon.
Je ne pense pas qu'on puisse réhabiliter les puits. Il y a malheureusement des nitrates aujourd'hui.
Alors donc, le château a été transformé en chambre d'hôte.
Voilà.
Vous habitez, je crois, les communs.
Non, on habite dans le château.
Ah, vous habitez le château.
Je vous avoue, en hiver, il fait un peu froid. Comme depuis 2 ans, on ferme pendant 3 mois en hiver pour faire des travaux.
Avec le réchauffement, bientôt, vous fermerez quoi, 15 jours.
C'est vrai qu'il a fait les octobre, novembre, janvier, exceptionnel.
Une piscine aussi, non?
Une piscine, oui.
Pas d'époque.
Non, pas tout à fait d'époque.
Non,
vous savez, il n'y a pas beaucoup d'eau à cet endroit. Voilà. C'est une butte et malheureusement, il y a de l'eau 23 mètres plus profond et on se pose des problèmes, des questions pour comment arroser un jardin comme ça, parce qu'il a tout même pris l'extension et d'année en année, on consomme plus d'eau, même en faisant très attention en arrosant l'arrosoir. Mais les légumes, si vous voulez qu'ils survivent la période terrible que nous avons eue en juillet dernier, il faut un petit peu d'eau le soir.
Quelle est la surface du jardin?
Bon, c'est pas énorme, les jardins, si vous voulez, c'est moins d'un hectare.
Enfin, à l'arrosoir, quand même.
Non, on fait pas tout à l'arrosoir.
Ah bon,
on fait les plantes qui ont vraiment besoin.
Un hectare,
c'est
de la promenade. Hein.
Les semis, ah non, c'est beaucoup moins. C'est, je dis un hectare. Il y a peut-être un peu plus d'un hectare sur les espaces, si vous voulez, les espaces verts.
Alors, vous avez commencé à nous dire les plantes vivrières, mais plantes tinctoriales, les plantes les simples, les plantes pharmaceutiques, probablement.
Voilà, les plantes condimentaires, les plantes aromatiques.
Mais les plantes, enfin, ce qui se mange clairement, quoi. Ce qui tient au ventre, qu'est-ce que vous proposez?
Il y avait toujours des vergers. Donc, si vous voulez,
il y a des vergers, là.
Ah oui, on a planté des vergers.
Poiriers.
Oui, on a planté toutes les espèces que vous puissiez imaginer, mais on en imagine encore. D'abord des espèces, si vous voulez, qui s'acclimataient bien, et puis après, on recherche des espèces qui sont des espèces plus exotiques. On a trouvé chez des voisins pas très loin un plaqueminier, si vous voulez, qui fait le kaki. C'est le kaki, oui, je crois.
Ah, le kaki, oui.
Le kaki. Donc ça, les kakis n'étaient pas très gros, parce que c'est un arbre qui a été planté probablement au 19e siècle. Mais maintenant, on fait des kakis beaucoup plus gros. Donc, on a planté aussi tout récemment, c'est pas du tout une espèce de Moyen-Âge, mais il y a encore des apports, si vous voulez, des pays lointains, que ce soit d'Amérique du Sud, ou que ce soit du Japon ou de Chine. Par exemple, le néflier, on en trouve, mais assez peu maintenant, parce que c'est mal se transporter, la nèfle du Japon. Le néflier du Japon. Mais on a des choses, si vous voulez, qui sont un peu oubliées aujourd'hui, parce que notamment les enfants n'oseraient pas en manger. Des choses comme les nèfles. Les nèfles, c'est...
C'est pourtant bon.
Oui, vous demandez à un jeune s'il a déjà mangé des nèfles, c'est pratiquement impossible. Mais les arbres ont subsisté. Les petites nèfles, maintenant, elles ont amélioré. Il faut les laisser un petit peu devenir blettes. Et les nèfles, c'est très bon, mais c'est une allure que...
Mais quand on va chez vous, on a le droit de piller un peu, de grappiller, pas trop, non? Il faut se cacher.
Je crois qu'on va être obligé, non pas de mettre des clôtures, mais je vais tout de même le jardin. Il faut passer par le hortus conclusus. Donc, hortus conclusus, ça veut dire jardin clos.
Oui.
Je vais mettre, je crois que ça s'appelait en langage du moyen, une aise. Et je vais mettre un petit portail tout de même.
Vous pouvez obliger les visiteurs aussi à porter des clochettes? Non, mais c'est comme ça, vous savez où ils sont.
Oui, ça serait une bonne idée.
Alors, chambre d'hôte. Il n'y a pas de restauration.
Alors, mon épouse fait table d'hôte tous les soirs.
Ah bon?
C'est extrêmement contraignant, mais ça va être magnifique. Et les autres curieux, on leur fait systématiquement surtout aux périodes de septembre, quand ça donne bien, des légumes qu'ils n'ont jamais mangés. Et
par exemple, dans beaucoup d'étrangers. Des blettes, des.
Ah, ben les blettes, c'est des crônes, assez facile. Des crônes, oui. Des
crônes. Ça, les crônes.
Topinambours.
Alors, on a deux espèces de topinambours. On a le topinambour classique, qu'on connaissait sûrement, mais on a les lentilles aussi. Les lentilles, ce sont des. Les deux sont de la même espèce, ils viennent tous les deux d'Amérique du Nord. Les lentilles tient un peu moins à la cuisson, c'est plutôt pour des potages. Mais il peut se manger cru. Il est croquant et délicieux cru aussi. C'est un légume qui a beaucoup de vertus, notamment pour les personnes qui souffrent du diabète, parce que ça contient l'inuline, qui n'est pas transformée, l'estomac humain ne peut pas transformer l'inuline. Donc c'est un glucide non transformable, donc il ne participe pas, si vous voulez, à faire monter le taux de sucre dans le sang.
Est-ce que vous avez essayé le bulbe de persil?
Alors oui, alors
bon, ça, hein?
Oui, on en mange, c'est aussi, c'est délicieux. C'est délicatement, ce qu'on appelle le persil tubéreux, voilà. C'est délicatement parfumé. Ouais. Vous avez le cerfeuil tubéreux aussi. Je n'ai pas encore essayé. Alors là, il faut se méfier un petit peu parce que les feuilles sont toxiques.
Oui, c'est ça.
Mais la racine, le rhizome, c'est pas un rhizome, c'est une racine pivotante. Et très très bonne. Mais on a eu des ocas du Pérou, on a eu des tas de plantes que nous ne connaissions pas, donc nous faisons avec beaucoup d'enthousiasme toutes ces découvertes.
Alors, la question, Bécassonne, c'est loin de Paris ?
Alors, c'est très facile d'accès de Paris, puisque prenez la A10,
oui.
Et la route de Bordeaux, l'autoroute de Bordeaux.
Tout droit, quand on voit un château
tout droit,
sur une butte, on s'arrête.
Et quand vous arrivez... Oui, effectivement. Il est de moins en moins visible parce que notre prédécesseur a planté une haie de tuyas qui, il y a une bonne dizaine d'années, commence à prendre de l'ampleur. Donc en descendant de Paris, il faut vraiment savoir où est le château. Mais c'est un des rares châteaux qu'on voyait le long du chemin. Et bon, il est tout même pas tout près, il est à 1600 mètres à vol d'oiseau. Et puis vous prenez la première sortie de Châtellerault Nord, la première sortie quand vous venez de Paris. Et on est à 5,5 km, 6 km de...
Alors après la question Bécassonne, la question indiscrète, qu'est-ce qu'il faut, c'est réservé aux gens très riches qui arrivent en hélicoptère ou est-ce que si on arrive avec
une
limousine de taille moyenne
dans les châteaux, c'est tout à fait des prix raisonnables, hein. Il y en a qui sont facilement le double nos tarifs. Non, les tarifs sont, si vous voulez, entre 75 pour la jolie petite chambre médiévale dans la tour, qui est typiquement médiévale, jusqu'à 120 pour la chambre des chevaliers.
Et si le fond du puits, c'est gratuit.
Le fond du puits, oui, mais on ne sait pas d'ailleurs où il est.
C'est
une histoire tout à fait authentique.
Non, mais c'est une belle histoire. Moi, j'aime bien. S'il y a des fantômes, ça ajoute quand même beaucoup. Ça évite de payer un gardien, d'abord.
Oui, c'est vrai. On n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Oui, ça...
Voilà. Alors, moi, j'ai très envie d'aller vous voir. On va descendre
avec
mon automobile à pétrole. On ira visiter tout ça. Parce
vous allez me donner un coup de main aussi. Il y a toujours de l'arrosage à faire.
Oui, surtout pour moi, je suis très, très bricoleur. Vous verrez, vous ne serez pas déçus du tout. Et vous pourrez vous adresser à l'ancien propriétaire qui avait retrouvé les ruines de son château. Merci, en tout cas, monsieur Bardin.
Je vous remercie.
Il faut que vous nous donniez l'adresse précise. Et que vous nous rappeliez le site internet, puisque maintenant c'est obligatoire.
Alors c'est Château de la Motte, 86 230, Usseau.
Château de la Motte.
Attends, Château de la Motte.
De la Motte, 86 230,
Usseau.
Usseau, U2S.
U. Et c'est tout près de Châtellerault.
Sortie de Châtellerault. La sortie avant Châtellerault.
La sortie juste avant Châtellerault, Châtellerault Nord, si vous voulez.
Si on va en autoroute, par l'autoroute, si on va par le train...
Si vous voyez par le train, c'est aussi assez facile, parce que n'étant qu'à 8 km de la gare, c'est facile de venir en taxi. C'est la gare de TGV de Châtellerault.
Et un téléphone où on peut...
Alors oui, bien sûr.
Réservé.
Oui, 0549 85 88 25.
0549 85 88 25.
Exact, oui. Et puis le site internet, je vais le répéter, c'est www.château sans accent circonflexe -2de-la-motte.net.
Merci beaucoup. Vous voyez comme on peut célébrer les mérites d'un jardin médiéval sur Internet. C'est quand même un assez joli raccourci chronologique, ça. Merci d'avoir.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises à venir parce que, comme le disent beaucoup d'auditeurs, j'ai la note ici. Voilà. J'ai perdu, bien entendu. Non, elle est là. Voilà. Félicitations à M. Bardin qui honore nos anciens et la France.
Merci encore une fois.
C'est à très bientôt, sans doute. J'essaie de passer vous voir, parce que ça me... Côté château, comme ça...
Retenez tout de même à l'avance, surtout en haute saison, parce que nous avons beaucoup d'étrangers.
Je coucherai dans les jardins.
Et puis, c'est toujours agréable de manger des légumes de jardin.
J'ai acheté une tente au canal Saint-Martin d'occasion, et puis je vais la planter dans votre jardin.
Merci.
Merci, monsieur. Eh bien, nous allons demander maintenant peut-être à Madame de Champry de venir nous voir. Et pendant qu'elle va faire son entrée, je me tourne vers Dominique Tasseau qui a un train à prendre. Alors vous avez des trains de nuit pour quitter Paris ?
Pas des trains de nuit, des trains tardifs, disons.
Voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Expliquez-nous ça. Parce que...
C'est un accident et je me suis cassé le bras.
Vous êtes cassé le bras, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas fait les choses à moitié quand même.
Oui, c'était cassé, double fracture ouverte, les tendons cassés. Donc,
et pourquoi vous avez fait ça ?
C'est une trappe qui s'est refermée malencontreusement. Ça n'a pas fait mal d'ailleurs, parce que quand ça coupe un endroit où il n'y a pas trop de chair, il y a plutôt des os, finalement, on ne souffre pas beaucoup, mais par contre c'est long après à récupérer.
Ah, écoutez, et ça fait longtemps que vous êtes handicapé.
Ça fait 6 mois que c'est en cours de guérison, mais...
Bien, écoutez, vous avez les doigts souples.
Tout, de ce point de vue-là, non, ça récupère bien.
L'essentiel, c'est que ça vous soit pas tombé sur la tête, parce que ça aurait vraiment été dommage.
Effectivement.
Alors, Dominique Tasseau, on le sait, il est le président.
Oui, président.
Du Centre d'études et de prospectives sur la science, le CEP. Alors, le CEP, je crois que depuis le temps que vous venez. Je vais quand même vous demander de le repréciser, à moins que Madame Denain, qui vous accompagne, veuille se charger de cette tâche, parce que jusqu'à présent, c'était
Guy Prival.
Guy Prival, que je voulais toujours appeler René, André, Albert, enfin, mais jamais Guy, de toute façon. Alors j'espère que je ne ferai pas les mêmes bêtises avec Madame Denain. Madame Denain, vous avez remplacé avantageusement Guy Prival, au moins sur le plan esthétique, sur le plan des qualités professionnelles, je ne sais pas, mais... il est très beau, Guy Prival, mais pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi, je préfère les dames. Et alors, expliquez-nous ce que c'est que le CEP.
Je crois que ça, c'est...
Oui, Julie Denain parlera des considérations techniques sur la façon de se procurer la revue, puisqu'un nouveau numéro vient de paraître. Malheureusement, l'imprimeur a pris du retard, la poste a cumulé ce retard, et je n'ai pas reçu en temps utile de quoi vous le mettre entre les mains. Mais je dirais, c'est chaque trimestre un numéro avec des thèmes particuliers.
Mais c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment demander au moins un exemplaire pour voir que c'est... Parce qu'elle est formidable, cette petite revue. Elle est intelligente, elle est passionnante à lire, pleine d'anecdotes, de remarques judicieuses. C'est une preuve supplémentaire, et d'ailleurs superfétateur de l'existence de Dieu. Mais c'est quand même intéressant de... voir comme dans les plus petits détails de la nature, le Créateur se manifeste. Et ça, vous savez très bien le faire.
Oui, et c'est d'ailleurs une chose qu'on a tendance à oublier maintenant, c'est que cette notion d'un Créateur intelligent qui a fait que les choses sont comme elles sont, est une notion constitutive de la science moderne. On a tendance à, depuis un siècle, évidemment, avec le scientisme, etc., à opposer la science et la foi. Mais quand on lit les textes des fondateurs de la science moderne, que ce soit Galilée, que ce soit Descartes, que ce soit Newton, que ce soit Leibniz, la raison pour laquelle la science européenne s'est développée est justement qu'il y avait en Europe le concept de création qui a manqué aux Chinois. Ça, c'est un historien de Joseph Needham, l'historien de la science chinoise très, très important, enfin qui a une quarantaine d'années, s'était posé la question, mais comment se fait-il que les Chinois, qui au Moyen-Âge avaient une technique plus avancée que la nôtre, n'aient pas inventé la science ? Et la réponse, et lui était marxiste, la réponse a d'autant plus de poids en un sens. La réponse, c'est qu'il a manqué aux Chinois justement. Alors, il a manqué deux choses. Il a manqué la clarté de la logique grecque. Alors ça, c'est le problème de la logique chinoise, qui par ailleurs a son intérêt, mais qui n'a pas les capacités de conclure affirmativement qu'à la logique grecque. Et puis le deuxième facteur, c'était justement cette idée de création. Donc cette idée qu'il y a des lois dans la nature, parce que le mot loi n'est pas un mot du langage normal de la science, c'est un mot du droit. Alors comment se fait-il qu'un mot du droit est passé dans la connaissance ? Eh bien la raison, c'est ce que dit c'est Descartes qui le dit, bon, il n'y a pas de loi sans un législateur, et Descartes dit, bien, Dieu a établi des lois dans la nature, comme un roi établit des lois dans son royaume. Alors ça, c'est un concept important, parce que s'il y a des lois dans la nature, et avec une intelligence derrière, il y a quelque chose à comprendre. Donc la recherche scientifique a un sens parce qu'on va on va trouver quelque chose, parce que notre intelligence est à l'image de l'intelligence qui a conçu la nature, donc elle est faite pour trouver. Alors ça, cette confiance dans et cette capacité d'émerveillement vis-à-vis de la nature est constitutive de la science moderne, et il faut le rappeler. Et je dois dire que parce qu'il se trouve qu'hier soir il m'avait demandé de passer à France 3. Parce que pas du tout pour dans l'idée de me faire parler, mais dans l'idée de me coincer. Mais évidemment,
il y a une
émission que je ne regarde pas, mais que j'avais regardé pour la semaine dernière pour voir à quoi ça ressemble, qui s'appelle Ce soir ou jamais, et on fait pas. Alors c'est là où on apprécie d'ailleurs quand on compare ce qu'est Radio Courtoisie par rapport à ce qu'est la télévision. Parce que vous mettez, alors il y a 8 personnes ensemble, alors ici c'est pareil avec l'animateur, il y a quelques thèmes qui ont été répartis à l'avance, seulement tout le monde parle en même temps, donc sur une heure ou une heure et quart de programme, en réalité on ne peut rien dire, on ne peut pas mener un vrai débat. Seulement là, ils avaient besoin, alors ils avaient voulu un créationniste. Parce que, bon, il y a des livres qui viennent de sortir, et puis il y a un dominicain qui s'appelle Jacques Arnoux, qui a sorti un livre, le créationnisme ou la fin de la science. Donc, alors, par un biais mystérieux, bon, ils sont tombés sur moi, évidemment, donc j'ai... par certains côtés, ça n'apporte rien, parce que de toute façon, plus c'est une heure telle que personne ne regarde, mais d'un autre côté, ça permet de voir comment fonctionne le système, et ça, c'est toujours instructif, le cas échéant. Mais ce qui est sûr, c'est que le sujet commence à inquiéter certaines personnes, au fond. Parce qu'en Amérique du Nord, alors en plus, on voit qu'il y a une certaine influence politique, finalement, on a des courants qui représentent quelque chose, et ces courants ne sont pas conformes. Et peut-être ne sont pas sous contrôle, ce qui est étonnant, puisque en même temps le président Bush normalement est quelqu'un qui est conforme, enfin puisqu'il a réussi à être président, mais
enfin, en tout cas pour la première semaine, c'est certain.
Alors en même temps, d'une certaine façon, moi je ne me présente jamais comme créationniste, parce que de toute façon c'est une étiquette qui sert à faire des gens une tête de turc. Donc il faut refuser tous les ismes, etc. Donc ouais. Je suis anti-darwinien, je suis anti-évolutionniste, etc. Mais le débat dans un système comme ça, le débat est impossible.
Mais en plus, ils sont désarmés et désarmants, parce que j'écoutais il y a 2-3 jours la nuit l'émission, la rediffusion de l'émission de sur Europe 1, comment s'appelle ce qui fait l'émission du matin. J'ai un trou, c'est
Chancel. Jacques Chancel.
Non, Chancel, c'était...
Non, Pradel, Pradel.
Pradel, voilà.
Jacques Pradel.
Alors, il recevait quelqu'un qui venait expliquer que on avait découvert une race d'hommes inconnus à Bali, ou je ne sais où. Et alors, enfin, des fossiles, des restes d'une race d'hommes inconnus. Alors, mais c'est très intéressant. Oui, parce qu'ils étaient tout petits, ils avaient le crâne plat, ils avaient les bras très longs qui traînaient par terre. Et j'écoutais ça, mais il a trouvé un squelette de singe, cet imbécile. Il va nous expliquer que c'est une race d'hommes inconnus. Et alors, il développait son raisonnement, et ça portait naturellement, toutes les explications portaient, les durées minimum, c'est 400 000 ans. Bien entendu, c'est minimum, hein, c'est par tranche de 400 000 ans, 400 000 ans, 800 000 ans,
façon,
4 millions d'années, etc. Et il expliquait que comment le monde était-il, comment la vie est venue sur Terre. Alors, au début, comme dirait Coluche, rien, la zone. Et puis d'un seul coup...
Même pas de mobilette.
Hein, même pas une mob. Et puis d'un seul coup... Il y a des trucs qui tombent, des gouttes de machin, et ça, voilà, ça fait de la vie. Hein? Ah bon, c'est comme ça? Oui, c'est intéressant. Et ils pensent qu'on va couper dans leur truc. Et quand on leur dit non, c'est pas ça, c'est le bon Dieu qui a créé la terre, voilà, puis il a créé la vie. Alors ils vous disent, mais vous êtes des fous. Alors c'est fou de croire qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers, mais c'est pas fou de croire qu'il y avait la zone, et puis d'un seul coup, il y a deux petites gouttes qui sont tombées, et ça a commencé à vivre.
Alors, c'est vraiment perturbant. Il y a d'ailleurs un physiologiste américain qui a dit que la baisse des résultats scientifiques aux États-Unis, qui est estimée à 40%, etc., s'explique justement par la contradiction mentale qu'il y a à enseigner des choses qui sont incompatibles. Parce que d'un côté, on enseigne qu'il n'y a pas génération spontanée, omne vivum ex vivo, donc il faut que la vie préexiste pour que la... Et puis d'un autre côté, on fait croire que du monde inerte peut surgir un être vivant.
Cela dit, l'histoire de l'inné et la génération spontanée, c'est des gens qui utilisent l'aspirateur, parce que si vous ne prenez pas d'aspirateur chez vous, vous ne passez pas l'aspirateur sous les lits, ça fait des moutons, et au bout d'un moment, les moutons se transforment en souris. Tout le monde a vu ça dans les maisons de campagne, non?
Mais tout le monde l'a constaté, et c'est pour ça que cette idée de génération spontanée a été aussi crue pendant toute l'Antiquité, tout le Moyen Âge, et il a fallu que le microscope permette justement d'aller voir en dessous des moutons et des puces les œufs qui existaient.
Ben voilà. Enfin bon, toutes ces blagues mises à part, c'est vrai que la posture intellectuelle. La posture, enfin, la façon d'aborder la réalité qui est liée au créationnisme est beaucoup plus exaltante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus motivante, beaucoup plus belle que la solution évolutionniste qui est consternante de stupidité, je dois dire.
Ah oui, il y a une cohérence. Puis Pierre, si on dit que les choses arrivent par hasard, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Donc c'est effectivement démotivant pour la recherche scientifique.
Qu'est-ce que vous sentez évoluer dans les participants que vous recevez à vos journées, parce que vous organisez donc régulièrement des journées régionales dans toute la France? Est-ce que vous sentez évoluer le public? Est-ce que vous le sentez augmenter? Est-ce que vous le sentez qualifié, de plus en plus qualifié, de plus en plus intéressé? Comment ça bouge?
Alors, disons que c'est... Je pense que la qualité du public ne change pas, parce que c'est un public tellement divers... qu'on ne peut pas mesurer un changement. Puis ce que je vois par contre, c'est qu'aujourd'hui on marque des points dans le milieu, dans les milieux scientifiques officiels. Et alors c'est particulièrement ce qui vient de se passer en Russie à la fin de l'année dernière. Et là c'est quand même assez important. C'est-à-dire que le vice-président du CEP, Guy Berthaud, qui est un géologue, qui a montré que les stratifications ne sont pas des empilements successifs, mais au contraire fabriqués par des courants horizontaux. Ça, c'était quand même amusant.
Un peu plus précis, parce que là, vous venez de survoler très rapidement le sujet, détailler le plus, parce que
tout simplement,
on sait bien de quoi il est question.
Quand on verse le principe de superposition, c'est de dire les couches les plus profondes sont les plus anciennes, et les couches qui sont en haut sont plus récentes. Bon, puis c'est quelque chose qui paraît tellement évident qu'on ne sait pas poser la question. De le vérifier. C'est le principe des idées claires et distinctes, c'est tellement évident qu'on ne cherche pas à vérifier. Donc pendant 200 ans, les géologues ont travaillé avec ce principe sans chercher à le vérifier.
Or, il y avait une mentalité de fonctionnaire, ça c'est à force d'entasser la paperasse sur le bureau. C'est vrai, on s'occupe que des trucs qui sont au-dessus, et de temps en temps, on envoie un huissier à chaîne, le ministre envoie un huissier à chaîne pour renverser la pile, pour qu'on s'occupe des...
Voilà, il y a des domaines dans lesquels ça fonctionne.
Ça.
Mais dans le domaine réel de la sédimentation, il y a une chose que tout le monde avait oublié, c'était la cause. Le facteur causal, c'est-à-dire le courant d'eau. C'est-à-dire qu'on a raisonné sur la sédimentation en faisant abstraction du fait que pour que les sédiments soient quelque part, il faut bien qu'il y ait de l'eau qui les ait amenés. Et l'eau n'a pas de mouvements verticaux, mais des mouvements horizontaux. C'est-à-dire que l'eau se déplace sur le globe horizontalement par des courants qui peuvent être puissants. Et... Alors il se trouve qu'on connaît très bien aujourd'hui la vitesse du courant nécessaire pour transporter un grain de telle taille. Et ça permet de faire ce qu'on appelle de la paléo-hydraulique, c'est-à-dire de reconstituer de façon avec des calculs le temps nécessaire à la constitution des couches sédimentaires et à leur transport. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce temps ne se mesure pas en millions d'années, mais il se mesure en jours. Il y a par exemple en Crimée enfin un faciès caractéristique avec des gros blocs insérés dans les dans le dépôt. Alors on sait exactement d'où ils viennent. Ils viennent de 400 km de là, en Russie centrale. Et compte tenu de la taille des blocs et de leur densité, on sait quelle est la vitesse du courant qui peut les transporter. C'est-à-dire qu'un courant plus faible ne les transporte pas, donc ils restent où ils sont. Donc pour qu'ils soient venus des 400 km jusqu'en Crimée, il a fallu un courant d'une certaine vitesse. Temps de transport, 20 jours. Donc nécessairement, tout ce faciès c'est constitué en 20 jours. Alors cette approche-là est évidemment un peu révolutionnaire, enfin dans le bon sens du mot. Ça choque quand même pas mal d'esprit. Et il y a un pays dans lequel c'est passé, je dirais, comme une lettre à la poste. C'est un pays dans lequel les gens ne sont plus arrêtés par les considérations idéologiques. Alors c'est ça qui est fantastique.
Ils sont même...
C'est que eux qui ont su ce que c'était que le poids idéologique avec le communisme, maintenant se sont libérés. Peut-être que sur le plan politique ou sur le plan économique, ils ne sont pas aussi libérés qu'on pourrait l'imaginer ou le souhaiter. Mais sur le plan intellectuel, cette intelligentsia russe qui a réussi quand même à tenir plus ou moins le coup en lisant entre les lignes, en écrivant entre les lignes, etc., aujourd'hui fait que si un article scientifique a un intérêt propre, même si ça a des conséquences qui font dresser les choses sur la tête, il peut être publié.
En somme, merci Lysenko.
Peut-être.
C'est un effet induit du lysenkisme. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque de Lysenko, les savants qui n'étaient pas d'accord, ils étaient assassinés, ils étaient exécutés. Lysenko faisait régner une véritable terreur.
Oui,
donc maintenant, ils se sentent libérés, ils savent qu'ils ne risquent plus rien et ils y vont ardemment.
Donc, Liberto a été invité à faire une communication à un congrès de géologie le 7 novembre. Ça s'est très très bien passé. Il vient de signer un contrat de recherche pour étudier les vitesses d'érosion avec l'Institut d'hydrologie de Saint-Pétersbourg. Et on l'invite dans différentes académies pour parler de ses travaux. Donc je dirais, les choses ont basculé. Alors ça, pour nous, évidemment, c'est un point extrêmement important, parce que on a beau dire que en ce qui compte dans les sciences, c'est la cohérence de ce qu'on dit, la conformité aux faits. Pour beaucoup de gens, ce qui compte, c'est de savoir si ça a été approuvé par les gens du métier. Bon, c'est, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, les choses changent. Ouais,
c'est
et peut-être que...
Enfin, pas le premier, mais c'est un bon coup pour tout le système. C'est-à-dire qu'il faut dire que quand Guiberdo montre, par exemple, les photographies des arbres fossiles verticaux dans des couches où il est censé y avoir 200 000 ans de différence entre le fond et le haut de la couche, on se demande comment l'arbre a fait pour pousser.
Pour tenir le coup, c'est sûr.
Il est évident que c'est pas comme ça que ça s'est passé.
De toute façon, quand on voit un fossile de méduse.
Oui,
méduses écrasées. Voilà. Quand on voit ce qu'on appelle les coprolites. Mmh. Les coprolites, c'est des crottes de dinosaures. Bon, la crotte, c'est quand même un corps périssable. Donc,
Dieu merci.
Pour qu'on en ait aujourd'hui des témoins massifs en pierre, bon, il a fallu qu'ils soient enfouis.
Instantanément.
Rapidement.
Il y a une très belle photographie, je crois que c'est vous qui publiez ça, du poisson qui est...
Ah oui, oui, bien sûr, c'est bien connu, le poisson qui... Le gros poisson qui mange un petit poisson.
Au moment où il est en train de bouffer un petit, alors les deux fossiles sont... C'est frappant. C'est vraiment des documents qui devraient ébranler tout homme normalement constitué dans sa tête, mais est-ce qu'il y a encore des gens normalement constitués dans leur tête? Ça, c'est l'autre question. Alors, vous organisez là, donc, une journée régionale.
Alors, c'est pas encore tout de suite, mais autant en parler dès maintenant, parce que comme c'est un samedi, parfois il faut réserver ses samedis longtemps d'avance. Donc, c'est le 31 mars à Paris. Donc, et justement, cette année, comme il y avait des éléments nouveaux, on a le titre du programme, c'est « Dieu a-t-il voulu l'évolution ?» Autrement dit, c'est les questions d'évolution qui sont quand même de plus en plus débattues, qui vont revenir qui constituent le programme. Et j'attire l'attention sur le premier conférencier, qui est le professeur Pierre Rabichong. Alors, Rabichong, c'est un ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier. Donc, je parlais tout à l'heure des percées en Russie.
Mais c'est pas un illuminé, quoi.
Exactement. Donc, quand un professeur d'anatomie, ancien doyen de faculté de médecine de Montpellier, n'est pas la moindre des facultés de médecine en France, vous le savez, publie au PUF.
Et depuis un certain temps.
Au PUF. Un livre qui s'appelle Le Programme Homme, dans lequel, évidemment, il y a de la notion de programmeur qui est derrière, et où il explique que, évidemment, les êtres vivants suivent un programme. Ils sont programmés, une impossibilité absolue d'imaginer qu'il pourrait justement surgir par hasard, d'une part, ou tout simplement surgir par transformation à partir d'une autre espèce préexistante. Donc pour Pierre Habichon, il y a vraiment des espèces qui sont évidemment constitué d'êtres vivants. Donc le vivant, par définition, est différent de l'inerte. Donc le vivant se transforme lui-même, mais il se transforme à l'intérieur de l'espèce. C'est ce que disait Pierre-Paul Grasset, qui était quand même vice-président de l'Académie des sciences. Alors lui, il est évolutionniste, parce que, comme tout le monde, il n'imaginait pas autre chose. Bon. Mais il disait, au fond, depuis 50 ans qu'on martyrise ces pauvres drosophiles. Alors, c'est la mouche dans le film. On leur a tout fait. On leur fait pousser des antennes à la place des pattes, des pattes à la place des antennes. On les fait pousser des drosophiles sans ailes avec des. Bon. Et c'est toujours des drosophiles. Donc, le problème, c'est que les gens qui croient à la théorie de l'évolution, c'est quand même. Et forcément, à un moment donné, ils sont obligés de croire qu'un être vivant a donné naissance à un autre être vivant qui avait des organes qui n'existaient pas dans leurs ascendants. Bon.
Je voudrais bien voir ce qui se passe, on est obligé
d'y croire. Il faut croire qu'à un moment donné, ça s'est produit. Et cette chose, bon, d'une part, n'a jamais été observée, mais ce que dit Habichon, en plus, c'est impossible. C'est impossible parce que l'être vivant ne peut fonctionner que si tout est pile poil conforme à ce qui est prévu dans le programme.
Les écureuils volants, par exemple, c'est un bel exemple. Ça. Vous avez des familles, des générations d'écureuils qui ont essayé de sauter sur l'arbre d'à côté, ils se sont tous cassés la gueule. Et il y en a un qui a dit un jour, mais bon sang, mais c'est bien sûr, je vais me faire pousser des membranes entre les pattes, et comme ça je vais en vol planer atteindre l'arbre d'en bas. Alors ça a pris encore plusieurs générations où ça poussait pas vite, mais ils ont fini par fabriquer. C'est ça l'évolutionnisme, hein, on est bien que
c'est de la science-fiction.
Voilà. C'est la et moi, ce que j'admire, c'est le premier écureuil qui a dit, il faut que j'arrive à me faire pousser des membranes entre les pattes pour pouvoir planer. C'est le Léonard de Vinci des écureuils.
Hein? Malheureusement, on est tellement imbibé d'évolutionnisme. Moi-même, j'ai cru à la théorie de l'évolution. On l'apprend à l'école, on est avec ça, puis on s'y habitue. On se met pas en face de ce qu'il faut avaler.
De ça par
si
ma mère,
si on peut.
Décidément, tu n'évolues pas beaucoup. Alors,
donc, nous aurons
donc ça, Pierre Habichon
en premier conférencier, et nous aurons en deuxième Clodéon qui va parler de l'intelligent design. Ouais, alors, ça, c'est aussi très important.
Pourquoi ne pas avoir appelé ça le dessin intelligent?
Non, c'est la vraie traduction française, c'est l'intelligence intentionnelle, et ça se trouve chez Claude
Bernard. Le dessin au sens du dessin.
Oui. Alors, disons que, effectivement, pour le français, il convient de parler de dessin intelligent ou d'intelligence intentionnelle, parce qu'il est les deux. Maintenant, pour être compris du public qui commence à lire dans ces journaux qu'il y a aux États-Unis. Il y avait les horribles créationnistes, et puis maintenant il y a un deuxième monstre qui est apparu, qui est l'intelligent design. Bon. Alors les gens ne savent pas ce que c'est, mais ils savent déjà que c'est
mal.
Donc, ils n'ont pas besoin d'aller voir à quoi ça ressemble. Et Clodéon, qui connaît très bien les auteurs américains, enfin qui les lit régulièrement, et donc va faire une conférence plutôt critique d'ailleurs sur l'intelligent design, parce que il faut bien voir que l'intelligent design, c'est un mouvement d'universitaires américains qui donc sont dans le nid idéologique de l'évolutionnisme et qui essayent de survivre dans cet environnement hostile. Donc ils ont trouvé une casquette, qui permet de dire, oui, je suis scientifique, je ne m'occupe pas de religion.
Une casquette blindée.
Et qui est de dire, et voilà, l'être complexe ne s'explique que s'il y a une intelligence derrière.
La théologie d'après Darwin par professeur Boulet.
Le père André Boulet, donc qui est un marianiste, qui avait publié il y a maintenant 5 ans un livre qui s'appelle Création et Rédemption, qui est très intéressant, parce que c'est un théologien, mais en même temps c'est un professeur de physique. Donc c'est un des rares l'ecclésiastique qui est à la fois une formation scientifique et une formation théologique, et donc il nous parlera évidemment des absurdités théologiques auxquelles ont été conduits, je dirais, 98% des théologiens.
Et c'est pour ça que vous concluez par Teilhard.
Et voilà, je parle de Teilhard, qui est à la fois quelqu'un, on pourrait dire, de sympathique quant au personnage de Teilhard. Je sais ce que vous allez dire. Non, mais je veux dire que d'une certaine façon, le personnage de Teilhard à réconcilier certains esprits avec l'Église ou avec la religion. Ah, oui. Tiens, voilà un jésuite qui se promène, il met plus sa soutane, il va piocher dans le désert. Enfin, donc il a rénové un petit peu l'image peut-être artificielle que certains avaient, et le dé porte-pierre, si vous voulez. Par certains côtés, c'est comme l'abbé Pierre. Si vous... Quand on creuse un peu, évidemment, on très rapidement, on arrive à être obligé de faire...
C'est le côté farceur, oui. Parce que quand même, c'était un grand farceur. Quoi.
Ah oui, puis il y a le côté fraudeur, hein, l'homme de Pildon,
et
l'homme
de Pildon, il y a tant d'autres choses, mais ses fréquentations étaient assez sulfureuses.
Oui, sulfureuses, assez... mais c'est lui, remarquez, bon, il en avait beaucoup. Oui. C'est lui qui a permis à, comment c'était-il, l'aventurier de la mer Rouge, là,
Manfred.
Donc Manfred avait besoin pour son trafic d'opium d'aller en Asie centrale. C'était dans les années 30, c'était donc en Union soviétique, et c'était Yar qui lui a fait obtenir les visas pour entrer en Union soviétique.
Par l'intermédiaire
de ses amitiés communistes. Bon. Oui. Donc c'était un ami fidèle, si vous voulez. Il a des qualités en tant que personne, mais il faut reconnaître que ça, c'est ce que je dis, pour ça que je dis la fausse solution théardienne. C'est-à-dire l'homme, maintenant qu'il a évolué et est sorti du singe, est assez fort pour réinterpréter tous les concepts théologiques à la lumière de la théorie de l'évolution. Évidemment, c'était une idée piège.
Maintenant, il faut travailler à démontrer le contraire. C'est pas l'homme qui descend du singe, c'est le singe qui descend de l'homme. Ça, j'en suis convaincu.
D'ailleurs, c'est plus facile, parce que le singe a 48
chromosomes. Il y a des preuves visuelles.
Chromosomes, donc...
Madame Denain, vous nous expliquez comment on peut participer à cette journée et comment on peut s'abonner à la revue. Alors, je recommande spécialement, je le dis à chaque fois, je ne vais pas me répéter. Hein.
Oui, alors ceux qui voudraient satisfaire leur curiosité sur les écureuils qui volent palmés sur Théâtre de Chardin.
L'écureuil qui a fait une banque quand même. Hein.
Oui.
Enfin, il a fini banquier, c'est vrai. Voilà l'évolution, tiens.
Voilà, exactement, un bon exemple. Et qui voudrait aussi tout savoir sur la journée régionale du 31 mars. En fait, le mieux, c'est qu'il s'adresse au secrétariat du CEP, qui se trouve 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr-sous-Dourdan, dont le téléphone est le 01 60 81 27 24. Je répète peut-être l'adresse, non? 4 rue de Beauvais, 91 410 Saint-Cyr-sous-Dourdan. Le téléphone, donc 01 60 81 27 24. Il y a également un courriel, s.cep@wanadoo.fr. Donc s.cep@wanadoo.fr. Et là, on leur donnera en fait tous les détails sur la journée du 31 mars avec le programme, la manière de s'inscrire. Et puis, ils pourront également demander un exemplaire de la revue.
Alors, il faut, le prix de la journée, c'est 21 euros pour la première personne, 12 pour les membres de la famille, et 13 euros pour le repas si on veut participer.
Voilà, le déjeuner. Bon, il vaut mieux s'inscrire avant le 15 mars. Ça se passe donc rue de Sèvres, à la maison Saint-Jean-Baptiste de La Salle.
Merci beaucoup, Madame Denain. Merci, Dominique Tasso. Eh ben, j'espère vous revoir déganté, si j'ose dire.
Oui, merci, Serge. Et puis,
vous devriez mettre ça, cette citation que nous envoie un auditeur, en exergue de votre revue. C'est: si vous dites aux gens qu'il y a 3 milliards d'étoiles dans le ciel, ils le croient sans broncher. Si vous mettez une pancarte peinture fraîche sur une porte, ils ne peuvent pas s'empêcher de vérifier avec le doigt. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, Serge. Et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, Madame de Champry, vous aviez l'air intéressée, petit œil critique parfois, mais c'est un peu votre domaine d'expertise, comme on dit aujourd'hui.
Pas puisque, vraiment, je ne prends pas jusqu'à Adam et Ève, mais encore
alors
que.
Alors voilà, c'est ça. C'était la première question que j'allais vous poser. Parce qu'en fait, ce que vous appelez la psychogénéalogie, bon alors j'explique que vous venez de publier un livre qui s'appelle Psychogénéalogie.
À la découverte
de la psychogénéalogie, qui est paru aux éditions
rappelez-moi
du dauphin.
Du dauphin, c'est ça. Et qui est la première question qu'on peut poser quand on parle de psychogénéalogie, c'est est-ce que c'est pas l'Église catholique qui a inventé la psychogénéalogie avec le péché originel, en disant aux gens, écoutez, vos malheurs viennent du fait que votre premier ancêtre, il a fait quand même une grosse bêtise.
Un petit peu, oui, si on
veut. C'est ça.
Hein. Quelque part, oui, je trouve qu'effectivement, quand on relit la Genèse, c'est un magnifique traité du transgénérationnel.
Il faut bien que Genèse se passe, comme dit un de mes amis, que j'aime beaucoup. Alors, qui s'appelle Herbiger, mon camarade Herbiger, mais enfin, c'est autre chose. Alors, psychogénéalogie, donc qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie?
C'est une nouvelle méthode thérapeutique pour essayer de comprendre en fait les certaines difficultés de certaines personnes qu'ils ne découvrent pas forcément dans leur histoire de petit enfant, disons pas qu'ils subissent forcément de traumatisme, et qui sentent qu'ils ont des pesanteurs, des douleurs, des places difficiles à vivre, et cherchent à donner sens en fait à leur place dans leur famille. Parce qu'on hérite souvent, on n'a pas forcément que... Je veux dire, tout est une question de la place du sujet que l'on occupe dans sa famille. Être le premier ne va pas être du tout, ne va pas avoir le même destin que le second, le troisième, dans une famille comme ci, ou comme une famille comme ça. En plus, chaque culture crée des modèles de famille, qui, il va y avoir effectivement des systèmes de valeurs, des croyances, qui de temps en temps vont être mises à mal, et on va se sentir peut-être en difficulté pour transgresser, entre guillemets, les valeurs du milieu. Donc c'est des gens qui sont en difficulté, par rapport à leur place.
Alors, quand vous dites leur place, c'est leur place de naissance dans l'ordre chronologique ou leur place dans la famille? Parce que vous avez des familles où l'aîné est à peu près inexistant, c'est le deuxième ou le troisième qui joue un rôle important, ou des familles où le père, par exemple, est effacé, où c'est la mère qui domine, voire la grand-mère, voire...
On regarde tout le système familial, en fait. Sur plusieurs générations, au moins trois ou quatre, si ce n'est plus même, un Ancelin que vous devez connaître, qui a écrit à mes aïeux, remonte jusqu'à la septième génération, et là, ça devient biblique, et elle-même, elle remonte même jusqu'aux croisades, donc comme on peut remonter, je vous dis, jusqu'à Adam et Ève, ça c'est sûr. Mais il y a effectivement l'impact, il y a ces couches, j'entendais les histoires des couches. J'ai la sensation effectivement qu'il y a des couches comme ça sédimentaires qui remontent à la surface et qui sont peut-être effectivement beaucoup plus, qui ont l'air d'être très anciennes ou très modernes, dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais qui vont raconter des mouvements qui vont quelque part teinter, je dirais, le caractère familial et finalement les projections que l'on adresse à chacun
mais au fond,
dans la place qu'il occupe.
C'est peut-être nouveau dans le domaine de la thérapie, mais c'est pas très nouveau dans les idées, parce que moi j'ai toujours entendu dire, tiens, il est bien comme son grand-père. Il se bagarre, le gosse qui rentrait de l'école avec sa chemise déchirée, la mère disait, il est bien comme son grand-père ou comme son oncle, qui pouvait pas traverser le village sans se battre avec d'autres gamins. Il y a cette idée,
de
toujours, des
tout
caractères
de famille,
les gens qui ont mauvais caractère, les gens qui sont gentils, les gens qui sont paresseux, les gens qui... Il y a les générations d'ivrognes. Oui. En soi, le fait qu'on ait le fils de ses ancêtres, c'est pas vraiment original, quoi. Ça peut apporter quelque chose à la connaissance des mécanismes de l'existence d'un individu, des réactions d'un individu?
C'est-à-dire que, effectivement, cette dimension-là, on la connaît. On est pétri, notre corps familial. J'ai l'impression qu'on est pétri. J'appelle ça le corps ancestral. Et on ne peut pas y échapper d'une certaine façon. Le problème, c'est que certaines personnes ont un corps avec lequel ils ne sont pas en accord. C'est-à-dire qu'ils héritent de quelque chose avec lequel leur âme, je dirais, n'est pas forcément en accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui résiste. Je pensais hier, je voyais une personne qui est un enfant de survivant de la Shoah. Dans son corps, elle est pétrifiée, c'est-à-dire qu'il y a comme une stase. On appelle ça la transmission des post-syndrome traumatique disease, les PTSD, qui sont en fait liés à le PTSD va sécréter le traumatisme va sécréter un certain nombre d'hormones de type plutôt cortical, des cortisones en fait, d'adrénaline, etc. Et le trauma va dans cet excès lié au trauma, il va provoquer une certaine forme d'inhibition.
Oui, par exemple, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir un développement normal, qui va rester petit, qui va rester...
Non, pas forcément, pas c'est plutôt ça, dans le mode relationnel, dans le mode comportemental. Cette personne me dit, par exemple, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me mouvoir, que tout est lourd. Je suis légère dans ma tête, mais mon corps ne me suit pas. Je ne suis pas en accord avec mon corps.
Et moi, je ne suis pas un survivant de la Shoah, mais je peux vous dire que j'ai aussi l'impression que je suis un peu lourd par moment.
Mais ce que j'entends derrière... Oui, mais ce que j'entends aussi, c'est que cette personne-là, elle est cherchée par tous azimuts, elle est en bagarre, je dirais, parce qu'on peut très bien aussi accepter son corps. Mmh. Elle est en bagarre, il y a quelque chose au fond d'elle qui résiste, qui dit « je ne suis pas d'accord », il y a quelque chose qui la pétrifie d'un côté et de l'autre qui dit je n'y renonce pas. Elle souffre de ça.
Est-ce que ce n'est pas une forme d'autosuggestion ? Dans ma famille, il y a ce traumatisme effroyable et je suis obligé de l'assumer, donc je le revis sans
arrêt.
Alors
c'est là où les travaux, par exemple, de Rachel Yehuda, qui est une psychiatre américaine, et qui a travaillé sur des prises de sang. Enfin, moi, je ne suis pas du tout biologiste, donc je ne connais pas ni médecin, donc je ne connais pas très bien ces choses-là. Ce que je sais simplement, c'est que quand vous avez effectivement un traumatisme, vous sécrétez un certain nombre d'hormones qui vont créer ce qu'on appelle les névroses, comme les névroses de guerre. Quand vous avez été, vous descendez, il y a une génération comme ça qui a été très abîmée par la guerre de 14, sont rentrés traumatisés. Ils sont mis à boire, ils sont, je dirais, morts psychiquement par la guerre. Mm-hmm. Bon, ces gens-là on leur ferait une prise de sang aujourd'hui, on pourrait déterminer pourquoi ils sont dans cet état dépressif, etc. Ça s'appelle un traumatisme post-syndrome traumatique disease. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la génération suivante va être porteuse. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Mais c'est là que je voulais en venir. Parce que...
Certains vont être porteurs, je dirais, de cette espèce de surplus qui ne sont pas liés. Donc, ils ont des dépressions. Sont victimes de dépression sans comprendre d'où elles viennent, cette dépression. Alors, on va leur donner du Prozac qui favorise, je dirais, la sérotonine, alors que dans le fond, il leur faudrait plutôt un autre type de traitement. Ouais. Alors, on diagnostique pas forcément les bonnes choses. Donc, voilà, c'était simplement pour dire qu'effectivement.
La question qui se pose à ce moment-là, c'est. Imaginez un enfant trouvé. Il ne sait pas du tout d'où il vient. Mm-hmm. Il ne connaît pas du tout ses parents. Et il a un problème, il vient vous voir. Est-ce que, sans qu'il puisse dire quoi que ce soit sur ses ancêtres, vous pouvez, vous, à travers vos techniques, identifier certains troubles qui, apparemment, pourraient venir de son passé familial?
C'est difficile, c'est beaucoup plus difficile, dans la mesure où, effectivement, il ne connaît rien. Alors après, on va essayer de reconstituer. On va essayer de reconstituer parce qu'il y a un minimum de choses que l'on sait. D'abord, il a été trouvé où ? Mmh. Et il va y avoir quelques petites traces. S'il n'a pas la même couleur de peau, et qu'il est par exemple en France, on va commencer à se poser des questions sur ses origines. Donc par le génétique quelque part ou par ses physiologies, il va retrouver certains petits éléments. Puis il va avoir un minimum de toute petite histoire. Et d'ailleurs, ça crée soit des résiliences, des personnes sont dans le déni, ne veulent pas tourner la porte et continue vers l'avant, mais d'autres sont terriblement handicapés, sont dans cette recherche, ils ont compris peut-être qu'un jour ils ne pouvaient pas et ils sont coupés. Ça sera les enfants qui généralement vont être en contact avec cette angoisse, ce manque primordial du parent, qui vont faire à ce moment-là des recherches et on va essayer de chercher, parce que je pense aussi qu'on trouve quand même beaucoup de choses, beaucoup plus que l'on ne pense.
Quel moyen trouvez-vous ? Vous vous interrogez beaucoup ?
Beaucoup l'état civil. L'état civil, on est quand même une civilisation où on inscrit, donc il y a beaucoup de choses. Alors ça demande de faire des démarches, hein. C'est quelquefois aller chercher quelque chose de très, très compliqué. Bon, ça c'est les cas extrêmes, hein. Mais c'est étonnant ce qu'on retrouve comme chose. Je suis surprise.
Quand vous interrogez quelqu'un, spontanément, il va répondre d'une façon qui va vous aider. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il va tout de suite toucher, de façon presque intuitive, l'aspect de son passé familial qui va expliquer son comportement, ou est-ce que ça nécessite
ça nécessite en fait un processus, parce que d'abord une personne vient, donc elle a une demande et dans cette demande effectivement il y a un fil rouge déjà. Qu'est-ce qu'elle cherche, pourquoi, et on va pas chercher, on peut lire un livre, c'est un système de lecture. Moi je sais lire maintenant les arbres généalogiques sous forme de génosociogramme, ou en entendant trois personnes j'ai acquis un mode de lecture, et je transmets d'ailleurs cette mode de lecture qui en est un, et il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Et puis je l'enrichis, ce mode de lecture, à chaque fois un peu plus, pour essayer de comprendre, de déchiffrer les signes, parce que c'est de l'archéologie, c'est du Sherlock Holmes, on cherche un peu tous azimuts, on émet des hypothèses, on essaye de reconstituer, enfin on cherche. Mais il y a une question derrière, donc je ne vais pas aller regarder.
Justement, quelle question vous posent les gens quand ils scientifiques? Pourquoi viennent-ils vous voir d'abord?
Ils viennent tellement pour des choses tellement différentes. Ils viennent parce que, on parle de la place, hein. Pourquoi suis-je le survivant dans ma fratrie? Parce que, par exemple, j'ai un frère ou une sœur qui se sont suicidés. Et j'ai l'impression d'avoir tout eu, et ma sœur n'a rien eu, ou mon frère n'a rien eu, et pourquoi je suis le survivant?
Donc il y a déjà un sentiment de culpabilité.
Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité liés à la place, d'être mal aimé, ou trop aimé, ou je ne sais quoi. Donc ça, ce complexe du survivant est quelque chose qui nous anime quand même très en profondeur. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui t'anime les arbres généalogiques? C'est aussi beaucoup la question de la balance des comptes, entre les générations, et une sorte de balance de justice, comme si on tenait une comptabilité inconsciente, hein, de ce qui se donne, se transmet, ne se donne pas à l'un plus qu'à l'autre. Alors dès qu'il y a une fratrie, ça pose le problème, ça crée de la rivalité, hein. Et on voit bien les histoires de Jacob et Ésaü. Et puis c'est pas parce qu'il a acheté son droit d'aînesse qu'il est pour autant devenu l'aîné, hein. Il a fallu qu'il aille d'abord faire ses 14 ans, donc en fait il a des épreuves avant, hein, de légitimité. En fait, quand on travaille avec l'arbre généalogique, enfin pour moi, c'est beaucoup le travail autour de la légitimité de sa place. Est-ce qu'on peut l'occuper? Alors quelquefois, on hérite. Il y a des places qui sont malades et il y a des places qui sont mortelles, hein, je dirais, dans un arbre généalogique. Il y a une puissance extrêmement forte des pressions sur certaines places. C'est pas forcément le sujet, mais c'est le sujet qui occupe la place, qui est menacée, je dirais. Parce qu'effectivement, pourquoi l'un et pas pourquoi l'autre?
Alors, on voit à peu près qu'est-ce qui peut amener quelqu'un chez vous. On entrevoit...
Problématique de deuil, crise de passage. Dès qu'on change d'identité, dès qu'on passe, on change de place transgénérationnelle. Enfin, dans le transgénérationnel, on évolue. On est bébé, mais on devient peut-être arrière-grand-parent. Et à chaque fois, c'est une crise.
Et alors, quand, une fois que vous avez diagnostiqué, parce que c'est ça, c'est le mot, vous avez trouvé, vous avez identifié... ce qui est probablement la source du trouble pour lequel on vient vous voir, enfin ce qui participe en tout cas à la genèse de ce trouble. Comment intervenez-vous sur le plan thérapeutique? Quelles sont les méthodes? Simplement, vous pratiquez, vous dites aux gens, voilà, ça vient de là, et maintenant, débrouillez-vous avec ça.
D'abord, dans la reconstitution, il y a déjà tout un travail de remaniement psychique qui s'opère, parce que déjà, on étudie toutes les versions du mythe, hein, et puis tout d'un coup, on se rend compte que derrière toutes les versions, il y a une réalité plus crue qu'on n'osait pas regarder. Donc déjà, ça change le regard, ça change de regard à partir de sa place. On est beaucoup moins infantile, je dirais. On voit la vie. On n'a jamais remis en cause nos parents, nos grands-parents. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, finalement, ils étaient des humains avec leurs faiblesses. Et que, du coup, peut-être que ces figures qu'on encense, sont simplement des personnes qui ont aussi fauté.
Mais est-ce que c'est pas extraordinairement dangereux, ça? Quel est l'intérêt de
changer de regard?
Ben oui, sur ses parents ou ses grands-parents.
Quelquefois, quand effectivement ça verrouille le système, ça mérite effectivement qu'on change de regard. Oui. C'est un petit peu l'histoire de Barbe Bleue, de la petite. Elle avait le choix entre quoi? Mourir ou essayer d'ouvrir avant de mourir pour sauver sa peau. C'est un peu l'histoire. Il y a des moments où il faut sauver sa peau. Et certains cas, dans les arbres généalogiques, c'est assez tragique, hein, ce que je vois. Hein. C'est assez tragique. Et il y a des moments où je me pose la question, pourquoi faudrait-il, tel Abraham, rester face aux idoles? Parce que c'est de l'idolâtrie, c'est plus de l'humanité pour moi.
Et vous avez parlé de mythes. Là, vous venez de parler de Barbe Bleue. Donc, à l'évidence, il y a une présence constante des mythes dans votre travail. Et est-ce que vous identifiez facilement, couramment, la résurgence de mythes universels dans les motivations?
Ça m'aide en fait à rendre compte, hein, pour voir des motifs, pour faire dégager des motifs. C'est un système de lecture.
Ouais.
Donc je puise dans tous les répertoires du collectif pour rendre compte, en fonction de la personne qui est en face de moi, et de sa culture aussi, parce que les symboles ne sont pas les mêmes. Donc moi j'utilise énormément d'outils, je dirais, qui me permettent... je puise dans les dictionnaires pour essayer de comprendre, de dialoguer, de reconstituer, de rendre compte d'une mécanique. Et au-delà de ça, Je pense que ce qui est le plus important, c'est, et ça on s'en rend compte aussi dans toute la neuropsychologie, c'est comment entre les informations contenues dans le néocortex, hein, qui sont des informations du conscient, et ce qui est complètement enfermé dans notre limbique, il faut reconnecter, je dirais, les deux niveaux. Et souvent, l'engramme traumatique, il est engrammé dans le limbique, va générer des systèmes, tous les travaux de laborie, tous les états d'urgence vont faire qu'une personne va se conduire parce qu'elle est formatée dans un état d'urgence lié à sa généalogie, va réagir d'une façon ou d'une autre, mais forcément ne met pas forcément le lien avec la situation du départ qui n'est plus du tout connectée, je dirais, avec sa réalité du moment. C'est une espèce de programme qui se met en route et qui fait que c'est déconnecté. Donc le travail, c'est de reconnecter.
Parce que c'est pas extraordinairement dangereux aussi, parce que vous risquez de fabriquer des comportements induits.
C'est la vieille
histoire des souvenirs fabriqués. Quand on commence à dire aux gens, il y a une explication dans votre passé familial au problème que vous avez aujourd'hui, les gens vont commencer à chercher, et puis ils vont se fabriquer en quelque sorte des excuses. Ils vont se fabriquer un passé familial.
Bah, ils se l'inventent pas forcément parce qu'elle est souvent confirmée, c'est ça le plus étonnant.
Vous connaissez la chanson de Barbara qui est L'Aigle Noir?
Oui.
Bon, alors il y a une interprétation de cette chanson qui a été donnée après la mort de Barbara, d'ailleurs assez récemment, où les gens ont scruté ça à la loupe en disant, bon, c'est parce que son père, elle avait un père incestueux, et quand elle voit l'aigle noir qui vient la piquer dans la nuit avec son bec, c'est son père qui venait.
Ça, c'est la lecture psychanalytique.
Oui, c'est une lecture psychanalytique, mais c'est ravageur, parce que on sait bien que. Ça n'a rien provoqué de particulier, mais on sait très bien que cette histoire d'inceste, ça a fabriqué des souvenirs induits chez des centaines et des centaines de femmes qui ont trouvé tout d'un coup une solution formidable à tous leurs emmerdements, en disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est parce que mon père se conduisait mal quand j'étais petite fille. Moi, je me demande si de tripatouiller, si j'ose dire, bricoler ces domaines du limbique ou de l'inconscient, ou on appelle ça comme on veut, c'est pas formidablement dangereux.
Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, les gens, quand ils... ce que je vois, moi, c'est que je vois surtout quand j'ouvre l'arbre généalogique et que je commence à le regarder un petit peu avec les personnes que j'accompagne, j'y vois une structure horlogère tellement impressionnante que je ne sais pas si c'est que du souvenir fabriqué. Parce que ça touche des choses tellement surprenantes en termes de répétition de dates, c'est incroyable ce que je peux constater. Moi, j'ai travaillé sur mon propre arbre, je peux me faire des souvenirs induits si vous voulez, je pense pas. Mon but, j'ai un esprit qui doute toujours, j'attends toujours, je veux bien accepter, mais je ne m'en satisfais pas. Je ne m'arrête pas à l'inceste dans ce problème. Mais quand ça commence à faire un faisceau de coïncidences, je dis simplement, moi je m'occupe pas de la personne, de son inceste avec son père ou sa mère. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui pourrait peut-être donner sens d'ailleurs à l'inceste de son père dans son arbre, parce que peut-être que du coup ça lui permettrait peut-être de se dégager de ce père abuseur qui, je vais essayer de trouver des détours moi pour l'aider à supporter cette réalité qu'elle veut prendre pour vraie. Moi, je vais jamais lui dire que c'est vrai, mais par contre si elle me l'annonce, je vais pas lui dire c'est faux. Mais je lui dis, mais pourquoi, quel sens ça, et puis peut-être que vous pourrez le regarder autrement. Je sais pas si ça crée que du souvenir.
Je pense que c'est une tentation
y a un danger, de beaucoup, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je pense que la psychogénéalogie est un mot que je refuse. Aujourd'hui, je l'ai écrit là-dessus. Enfin, je refuse. Je m'identifie plus dans l'analyse transgénérationnelle, auquel cas là, je ressemble plus au psychanalyste. Mais dans une recherche qui n'est plus que du décodage, où on va tout de suite trouver une solution de recette de cuisine, parce que tout d'un coup, ta-ta-ta-ta-ta, on va avoir la solution. Parce que effectivement, c'est tellement horloger qu'on sait. On l'interroge. Personnellement, moi, j'ai une posture d'hypothèse.
Une rémanence des dates, par exemple. Oui. Dans un arbre généalogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens meurent à la même époque,
oui, sont conçus à la date anniversaire. Et ce chope, je dirais, dans la conception, pour moi, je pense qu'on est sécrété par le système, la gestation. Ce que j'ai simplement découvert, on parlait de l'évolutionnisme, j'en suis que là, moi, personnellement, c'est que ce que je comprends des arbres généalogiques, c'est que la conception échappe totalement au désir conscient des parents. Complètement. C'est sécrété pour moi par le système parce que, justement, dans ces logiques de date, dans tout ce qui fait ça, Là, ça appartient au système. Par contre, après, la gestation et la naissance sont un système d'empreintes, d'engrammes de l'inconscient, gesté par la mère, le père, etc., la famille, etc., et toutes ces matrices dans lesquelles ils rentrent, l'école et tous les conditionnements. Mais le déterminisme, en fait, il vient du système dans la conception. On serait des vaches, on serait assimilables à 100%, nous, les femmes. Mais nous ne sommes pas des vaches, ça ne marche pas. Comme on voudrait. Il y a des femmes qui veulent, il y en a qui veulent pas, et c'est jamais les bonnes qui, ou c'est toujours, il y en a qui se disent, oh, bah, c'est par chance, moi j'ai voulu, bah, ça a marché. Mais ça ne marche pas, enfin, c'est tant mieux pour elle, mais c'est du hasard, je dirais, par rapport à son propre désir, vous voyez? C'est du hasard.
Voilà, on a essayé de faire une approche de votre, d'approcher la compréhension de votre activité. On comprend beaucoup mieux quand on lit votre livre, bien sûr, parce que y a des exemples, c'est un travail fort intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait c'est une espèce de remise en forme ou de mise en langage actuel de choses qu'on sait depuis très très longtemps. C'est fondé, quoi. On voit bien que c'est pas un truc qui est tombé du ciel, c'est pas une idée qui est venue comme ça, une idée marketing qui a été lancée brutalement.
Les Grecs et la mythologie, c'est que ça.
Oui, c'est ça, exactement, voilà, c'est rattaché au grand mythe.
On peut lire Oedipe, soit avec son pied enflé, comme la psychanalyse, avec son complexe, soit on peut effectivement le relire dans sa généalogie et se rendre compte qu'il y a une succession boiteuse du trône de Thèbes. Donc le pauvre homme, il a jamais été légitime, et donc il hérite en fait d'une défaillance paternelle de père en fils, qui va donner sens. C'est une autre lecture, mais c'est quand même peut-être, c'est ça d'ailleurs qu'il va découvrir à Cologne, ou vers le, de se rendre compte que l'ancestral fait partie de sa famille et que sa place, elle a été déterminée. Le pauvre homme, il n'a pas voulu faire du mal quand il est arrivé. C'est innocent, je dirais.
Ah, il est totalement innocent,
mais il essaie de donner sens à la place qu'il occupe dans le système. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de votre livre. Il s'appelle « À la découverte de la psychogénéalogie, conséquences et effets du passé familial sur nos vies ». C'est un livre de Géraldine Adam, préfacé et dirigé par Constance de Champrice, qui est analyste transgénérationnelle. C'est un beau titre, ça j'aimerais bien mettre ça sur mes cartes de visite.
Aux éditions du Dauphin.
Vous savez, le gars de Jalon, comment il s'appelle, qui est tellement drôle, le président de Coq. Il a une carte de visite sur laquelle il y a un président de Coq, spécialiste. Je trouve ça, il dit que c'est un filtre à con. Parce que les gens qui disent spécialiste de quoi ? Il dit, vous avez droit aux pages noires de mon carnet. Non, en l'occurrence, analyse transgénérationnelle, c'est beau. Merci Constance de Champrice. Alors, c'est paru votre livre aux éditions du Dauphin.
Merci.
Et j'en recommande la lecture pour tous ceux qui se posent des questions sur le rôle de leur passé familial dans leur existence aujourd'hui.
Vous signerez le samedi 10 février de 15h à 18h30 à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
C'est le 10 février, c'est pas samedi prochain, c'est le samedi suivant.
Ouais. Voilà.
Alors, allez-y pour les annonces.
Faites-nous les autres. Jeudi 1er février au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, à 20h, conférence du professeur François-Georges Dreyfus sur le régime de Vichy. C'est une conférence du Café Bleu et de l'Alliance Royale.
Encore les Bleus ?
Toujours les Bleus. Mardi, et toujours à Saint-Paul, mardi 6 février, à 20h, c'est une conférence de Monsieur l'abbé Guy Pagès pour un dialogue chrétien avec l'islam. Toujours à la même heure. Samedi 3 février, de 15h à 18h30, Louis Collet signera une expérience familiale, histoire vécue d'une famille de 8 enfants, dont 3 sont trisomiques, aux éditions Clovis. Jean-Pierre Diques signera L'homme artificiel, Jean Madiran, Le pacte de Metz, ou Pourquoi notre mère fut muette, toujours au Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Alors, à la mer agitée, il se passe beaucoup de choses. Soirée culturelle, Eric Satie, ce sera 35€, et c'est le vendredi 2 février, inscription au 06 29 74 10 80, je laisse au secrétariat, si vous avez des difficultés à suivre. Soirée jazz manouche, le mardi 6 février, 30€, inscription au 01 43 35 56 64, ça vous coûtera 30€. Soirée cœur montjoie Saint-Denis, le mercredi 7 février, 30€. Inscription sont au 01 43 35 56 64. Voilà.
Mais quand est-ce qu'on mange dans ce restaurant?
On mange pendant, enfin, ou après, il y a la conférence, ils se débrouillent. Collège Padre Pio organise une journée porte ouverte le samedi 3 février, de 10h à 17h. Ça se tient au 55 rue du Pont de Créteil, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés. Téléphone 01 55 96 38 06. Toujours porte ouverte à l'école Charles de Foucault, maternelle et primaire, samedi 10 février de 14h à 18h, 102 Terre, rue Garibaldi, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés, et le téléphone
à force d'ouvrir les portes
01 94 100 Saint-Maur-des-Fossés, le téléphone 01 42 83 66 69.
À force d'ouvrir les portes des écoles, tous les gosses vont foutre
le
camp. Vous
allez battu, Serge. La parole est à la musique. Anne Brassier, Didier Rochard et Yves Tarantic vous invitent à assister au concert donné par Vladimir Chevel, violoncelliste. Violoncelle, oui. Et Pierre Molina, oui, au piano. À la Fondation de Juge de la Meurthe, 37 boulevard Jourdan, Paris 14e. C'est le samedi 10 février à 20h, entrée libre. Alors, je rappelle que le titre du livre de Jean-Pierre Rondeau, c'est « Vérité sur la rébellion algérienne ». Et ça, c'était édité par Randa du Alpha. Et puis,
on a posé la question, on
le château de la Motte, nous n'avons pas donné l'orthographe, donc il se tient au 86-230 à Usseau, U-2-S-E-A-U, c'est près de Châtellerault, voilà. Et puis les années, Thierry Boucher, oui, les années Poujade, édition Rémi Bouclier, qu'est-ce que je raconte? Je savais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, les années Poujade, édition Rémi Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e, qui signera le samedi 3 février de 14h30 à 17h à la librairie du Ken.
Et vous avez annoncé la petite messe de l'abbé Couex?
Non, je vous l'ai donné pour que vous le disiez.
Alors vite, il y a une messe demain à 19h à Saint-Eugène pour le petit abbé Couex qui nous a quitté il y a un mois, qui était donc Franck-Marie Couex, qui était à Grissiliano,
voilà,
à qui on
Serge,
pense beaucoup.
Bouchez-vous les oreilles. 6 heures de Serge Lebecquetch, non seulement on en est très heureux, mais en plus on en redemande, et avec Roger Olin en plus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un régal de vous entendre, et Gérard Marin aussi. Voilà.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er février dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck.